With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Un gros hamster fumeur peut-il gagner des courses? Eh bien oui, et Johan Stuck nous explique comment. Bonjour, bonjour, c'est Bertrand, bienvenue dans Kilomètre 42, le podcast dans lequel nous parlons de running, de trail, de lifestyle sportif, de mouvement, de comment le mouvement nous aide tout simplement à retrouver notre corps, à le retrouver en meilleure santé, avec plein d'énergie, en meilleure forme. Et c'est un sujet que nous allons aborder aujourd'hui avec l'invité Johan Stuck, parce qu'on a parlé de beaucoup de choses. C'est un épisode format dernier ravito, un épisode un petit peu long, ça vous fait une belle sortie longue, mais dans lequel vous allez apprendre énormément de choses, parce qu'on est vraiment rentrer dans le détail de certaines petites choses, ces petites astuces, ces petits conseils pour progresser, pour manger, pour... On a parlé du sommeil, on a parlé aussi de ses difficultés, on a parlé de renforcement, on a parlé d'exercices, de types d'exercices qu'il peut faire, de pourquoi il s'entraîne, de ses faiblesses aussi, comment il s'entraîne sur ses faiblesses aussi finalement, et qu'est-ce qui fait la clé de sa réussite? Comment lui qui pesait 95 kilos, qui fumait 30 clopes par jour, a réussi tout simplement à devenir le sportif de haut niveau tel que nous le connaissons, qui a gagné des courses, qui envoie dévaler, il nous dira non qu'il dévale pas si bien que ça les pentes, mais en tout cas il les monte beaucoup plus vite que nous tous réunis, comment il enchaîne les kilomètres et comment finalement le sport, le running a totalement changé sa vie et comment il construit sa vie, de quoi il vit, comment il s'organise dans ses journées. Et c'est vraiment un podcast qui s'est vraiment rempli de petites pépites, voyez, et je suis très fier d'avoir reçu Johan Stuck, parce que quand j'ai commencé à courir il y a quelques années, en fait j'ai écouté certains podcasts, et je me rappelle sur les chemins là autour de la maison, j'écoutais un jour un podcast avec Johan Stuck qui racontait son histoire de coureur qui pesait 95 kilos, qui fumait 30 clopes par jour, et qui s'est mis à courir, alors pas de manière très facile, mais pour l'ancien hamster obèse que j'étais, enfin le hamster obèse que j'étais à l'époque, écouter ce témoignage quelqu'un comme lui qui avait eu ce parcours me disait moi aussi je peux arriver tout simplement à courir plus vite, à faire des nouvelles choses. Et vous savez que dans mon objectif de rêve, de courir après mon rêve de gosse, de devenir un sportif, alors je vais poser la question de savoir si t'es sportif pro ou pas, et ça va faire un petit peu avancer le schmilblick dans certains aspects, mais de vraiment de toucher, de vivre du sport, de vivre dans le sport, de pouvoir mettre du sport dans mes journées et en faire en partie mon métier, ça m'intéressait de voir comment lui s'y était pris. Alors on a parlé façon dernier ravito, je le dis, lui depuis sa terrasse, on entend les cigales derrière, de sa vie, son quotidien, ses entraînements, son alimentation, ses conseils pour progresser. Et en fait, j'ai beaucoup d'autres questions, notamment sur ses sponsors, comment il a construit tout ça. Mais cet épisode vous fera déjà une très belle sortie longue. Avant de vous laisser écouter ma discussion avec Johan Stuck, je voudrais vous donner 2-3 petites infos comme ça, vous savez, j'ai toujours l'habitude. La première, c'est de remercier les derniers patrons qui sont venus financer le podcast et financer ma vie sportive, justement ce rêve. Alors je remercie Eric, Damien, Michael. Vous pouvez venir sur patreon.com/km42 pour donner à partir de 1 euro, enfin c'est plutôt en dollars, 1 dollar par épisode, et tout simplement ça permet de financer tout ce qu'il y a autour du podcast et notamment quelque chose qui est en train de se construire, et c'est la communauté du Hamsters Running Club. C'est vraiment, vous savez, j'avais monté un groupe Facebook au départ, et en fait le problème des groupes Facebook, il y a l'algorithme de Facebook, etc., mais ça j'ai pas trop en parler, et puis il y a aussi en fait que sur Facebook, il y a plein de choses qui sont régies par Facebook, comment ils le font, etc. Et puis vous êtes aussi à la merci de plein de petites choses qui passent de Facebook, etc. Et en voulant vous connecter sur des groupes qui sont bienveillants, comme ce que je veux construire avec le Hamster Zoning Club, vous n'étiez pas à l'abri d'avoir une notification venant d'espaces où c'était un peu moins bienveillant. Et je le dis, moi je trouve qu'il y a des groupes de running, par exemple, où quand vous êtes débutant, quand vous êtes gros, comme je le suis, enfin je l'étais parce que je suis beaucoup moins maintenant, quand quand vous êtes débutant, vous avez des questions, et vous n'osez pas venir les poser ces questions-là, et vous avez peur d'être jugé. Si vous dites que vous voulez courir un marathon à 9 km/h ou à 10 km/h, bah, il y en a, ils vont dire, bah oui, mais tu n'es pas un vrai coureur ou quoi que ce soit. Et moi, ça, vous savez, j'en veux pas. J'avais répondu il y a quelques temps à une question sur ce sujet-là, c'est quelque chose dont je ne veux pas. Et donc, le meilleur moyen de s'en affranchir, eh ben, c'est de créer son propre réseau. Et donc, c'est ce que je suis en train de faire, ça s'appelle le Hamsters Running Club. Voilà, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Et dessus, bah, y a des groupes, on peut s'organiser en groupe, on peut avoir des discussions, des chats, on peut mettre des sondages, des forums, des vidéos. C'est à l'abri de tout. C'est-à-dire qu'en fait, une fois que vous êtes dedans, tout ce qui est dans le Hamsters Running Club reste dans le Hamsters Running Club. Hein, ça fait partie d'une des règles qui est extrêmement importante. Et puis dedans, bien sûr, il y a de la bienveillance, il n'y a pas de jugement. Et bon, bien entendu, bah, tout ça coûte un petit peu d'argent et ça, Patreon finance aussi ça. Et le Hamsters Running Club aussi va venir aussi avec des formules de soutien, mais aussi petit à petit hein, des projets pour vous aider à courir avec peut-être des contenus payants, des choses comme ça. Mais ça, je vais le construire au fur et à mesure. Et donc, c'est un élément, hein, si vous demandez à quoi sert l'argent de Patreon, il sert aussi en partie à construire ça. Et puis, avant de terminer cette petite intro, je vais pas la faire trop longue maintenant, je voulais remercier aussi ceux qui me laissent des commentaires sur Apple Podcasts. Par exemple, Lucio qui me dit « Bonjour, continue à vulgariser la course à pied comme tu le fais avec bienveillance. Cela doit rester un plaisir. Effectivement, tu ne vas peut-être pas conseiller des élites, quoique tes conseils sont pleins de bon sens. » Merci Lucio, tu as compris exactement le mot bienveillance. Voilà, le mot bienveillance, pour moi, c'est un mot extrêmement important. Il faut être bienveillant entre nous, mais il faut être bienveillant avec nous-mêmes aussi. Hein. Ce que je disais sur Instagram, on ne court pas à la même vitesse, on ne fait pas les mêmes parcours, on ne court pas de la même manière, on n'a pas la même histoire, on n'a pas la même fatigue, on n'a pas la même journée. Mais en fait, on est tous réunis par quelque chose qui nous anime, c'est de bouger notre corps. Et pas seulement de bouger pour bouger, mais de bouger pour nous permettre de faire d'autres choses. Alors pour certains, ça va être de faire des courses, pour certains, de faire un marathon, des ultra-marathons, pour d'autres, ça va être de faire de l'Ironman, pour d'autres, ça va être juste d'être en meilleure forme, pour d'autres, ça va être de se sentir tout simplement mieux dans sa tête en faisant bouger son corps. On a chacun notre motivation, on a chacun notre parcours, mais on est réunis par cette volonté de progresser et cette volonté aussi, hein, tout simplement, de s'entraider, de s'encourager, de s'aider à faire des choses qu'on ne se pensait pas capable de faire. Enfin, si vous êtes là comme ça en train d'écouter dans une sortie longue, une sortie courte, si vous êtes dans votre voiture, si vous êtes chez vous, n'importe où que vous soyez, vous savez que ce qui peut aider beaucoup, beaucoup le podcast à se développer, c'est une petite dédicace et notamment dans les stories Instagram. Alors le principe, c'est simple, hein, c'est que vous pouvez prendre une copie d'écran du podcast quand vous êtes en train de l'écouter, mais vous pouvez faire une photo de là où vous êtes quand vous courez. Si par exemple, vous êtes sur un chemin au lever du jour, comme certains le font, ben, vous pouvez faire une petite photo. Vous me taguez, @BertrandSoulier, ou vous mettez le hashtag KM42podcast. Vous faites ça dans une story Instagram. Moi, je repartage ça pour montrer comme ça, comme nous courons tous ensemble, et ça aide le podcast à se faire connaître. Et je vous remercie d'avance pour m'aider à faire connaître le podcast. Vous savez que bah, c'est un petit peu le nerf de la guerre, hein. C'est-à-dire que plus il y a d'audience, et plus en fait nous serons nombreux à pouvoir partager notre passion et à construire des choses. Et c'est comme ça aussi qu'on peut avoir d'autres invités, hein, faire grimper un petit peu dans l'échelle, avoir des invités de plus en plus connus. Alors le but du jeu, ce n'est pas d'avoir des invités toujours plus connus les uns que les autres, mais c'est vrai que c'est d'avoir des invités qui ont un parcours. Johan Stuck, c'est vrai que quand on regarde son parcours, on se dit, il est quand même, c'est chouette quoi, c'est vraiment chouette de se dire que, et il le raconte, hein, comment il avait de boulot, comment il était gros, comment il était fumeur, etc. et comment il a réussi à construire tout ça. Je vous laisse écouter tout ça maintenant parce que c'est vraiment passionnant. Je remercie beaucoup Johan pour le temps qu'il a pris. C'était une discussion vraiment super sympa. J'aurais fait durer encore une heure ou deux heures de plus, vous voyez. Ça aurait fait vraiment une grosse sortie longue, on aurait fait presque un temps marathon, mais vraiment, j'ai pris tellement de plaisir à discuter avec Johan de tout ça, et vous allez retrouver dedans des éléments qui donnent, beaucoup d'éléments qui donnent, que je vous ai donné dans les autres épisodes, un petit peu, vous voyez, par petites bribes, un épisode par-ci, un épisode par-là, où je donne des éléments, et lui, en fait, il va vous montrer que, en recomposant tout ça, en reconstituant tout ça, en amalgamant tout ça, il en arrive là où il en est, avec, bien sûr, une valeur qui est importante, et on en parle à la fin, c'est un des slogans qu'il a sur ses chaussettes, la notion, en fait, de travail, hein, d'être, comme il dit, c'est un besogneux qui travaille beaucoup pour arriver à faire ce qu'il a envie, mais à faire ce qu'il a envie, il l'explique, hein, qu'est-ce qui l'anime réellement, et vous allez voir que c'est super intéressant. Je vous laisse maintenant écouter cet épisode avec Johan Stuck, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bonjour Johan.
Salut Bertrand.
Comment vas-tu ?
Eh bien écoute, ça va très bien. Tu vois, là je suis sur ma terrasse avec le bruit des cigales, je ne sais pas si on les entend, mais voilà.
Alors
avec nous.
On les entend très 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 bien. Hein. Là vraiment on est dépaysé. Moi qui te croyais à Lyon, mais en fait t'es pas à Lyon alors.
Non, parce qu'en fait bon, j'habite toujours à Lyon, mais moi je suis originaire du sud de la France, un petit village entre Avignon et Lille sur la Sorgue qui s'appelle Châteauneuf-de-Gadagne, où j'ai grandi, j'ai passé toute mon enfance ici et du coup ben c'est un plaisir d'être là cet été. En fait, on est venu se confiner ici parce que j'ai une petite maison. Et au final, même après le déconfinement, on a voulu rester là. Donc voilà, on en profite d'être là. Bon, c'est vrai que les montagnes me manquent, moins Lyon. mais voilà, on est très bien ici. Donc les cigales accompagneront ce podcast.
Oui, alors j'ai vu d'ailleurs que tu avais trouvé que Lyon, son air irrespirable, finalement, tu n'avais pas trop manqué. Hein.
Non. En fait, j'adore la ville de Lyon. J'ai mis du temps à m'y faire parce que, tu vois, le village dont je parlais, il y a moins de 3000 habitants, tu vois. Donc, c'est vrai que c'était très dur d'arriver sur une ville grande comme Lyon. Après, je me cache pas en disant que Lyon est une très belle ville, historiquement parlant. Et puis, autour de Lyon, c'est magnifique, entre les Monts d'Or, les Monts du Lyonnais, voire le Beaujolais. Mais c'est vrai que l'intérieur de Lyon est magnifique. Et par contre, ce qui m'horripile, c'est cette pollution. Ouais, c'est des gens qui prennent pas la peine en fait de faire attention à leur ville, à leur planète. Donc c'est vrai que ça me gêne. J'ai fait quelques allers-retours sur Lyon quand même depuis le déconfinement. Et c'est vrai qu'il y a certaines choses qui m'avaient pas manqué, tu vois. Après, si je peux donner un petit coup de pouce à la ville de Lyon, surtout que depuis les dernières élections, voilà, maintenant c'est passé vert, donc il va peut-être y avoir des choses mises en place. Si je peux aider, ce serait vraiment avec plaisir.
Et oui, et c'est vrai que Lyon, on en parle, moi je suis à 1h30 de Lyon, donc c'est pas ma ville où je suis le plus souvent, mais moi j'étais toujours très surpris qu'il y ait autant d'autoroutes qui traversent la ville, alors que le centre de Lyon est magnifique, les environnements de Lyon sont magnifiques, mais c'est vrai qu'il y a une espèce de configuration des routes qui est quand même un petit peu curieuse. Mais par contre, c'est vrai que vous avez des terrains d'entraînement tout autour que je pense que les gens sous-estiment d'ailleurs. Hein.
C'est vrai, en plus, tu vois, j'avais fait déjà des petits runs communautaires, avec des gens en partant de la place Bellecour, tu vois, et donc c'est vraiment le cœur même de Lyon. Et on était arrivé à faire un tour dans les Monts d'Or, voire à arriver jusqu'au sommet le plus haut des Monts du Lyonnais, tu vois. Donc on avait fait deux sorties, voilà, dans ce thème-là pour montrer que vraiment les espaces verts, ils sont vraiment à deux pas, quoi. Donc ouais, c'est vrai que on n'imagine pas ça autour de Lyon. Et c'est vrai, comme t'en parlais, le trafic routier, il est quand même exceptionnel. Tout le monde connaît le tunnel sous Fourvière, où on a les bouchons estivaux qui s'agglutinent ici. Alors apparemment, c'est en voie de disparaître. Mais bon, après, quand ça, je ne sais pas. Et comment, alors ça, c'est la grande question, quoi. Voilà.
Voilà. Bon, c'était une petite parenthèse sur Lyon, mais on n'est pas là pour parler que de Lyon, en tout cas, parce que le but du jeu, moi, c'était aussi qu'on parle de toi. Alors, je sais pas si on doit te présenter, parce que j'ai l'impression quand même que dans la planète course à pied, trail, tout le monde te connaît, mais finalement, en quelques mots, comment tu te présentes?
En fait, ouais, on me connaît, mais au final, on me connaît très peu. Donc, d'ailleurs, c'est pour ça que je suis super content de faire le podcast avec toi, si on parle de choses différentes. On me connaît très peu, on me connaît un petit peu sur les réseaux sociaux, mais au final, la personne, Yuan Suk, je parle à la troisième personne, mais on la connaît très peu. Au final, je suis quand même quelqu'un qui est assez réservé, malgré ce qu'on peut penser. Je suis un ours aussi, j'adore être tout seul, tu vois. Par exemple, aujourd'hui, j'ai fait 3 heures dans le Mont Ventoux, qui est pas très loin d'où je suis. J'ai fait 3 heures tout seul en croisant personne, j'étais la personne la plus heureuse, tu vois. Et j'adore faire ça, me retrouver tout seul, même pendant 7, 8, 9 heures, tu vois, faire des petites traversées, c'est vraiment cool. Pour me présenter vite fait, je m'appelle Yuan Suk, donc je viens du sud, je suis né à Cavaillon, maintenant j'habite sur Lyon. J'ai commencé la course à pied assez tard, en 2010, donc je vais fêter mes 10 ans de course à pied et mes 10 ans d'arrêt du tabac, et aussi d'autres choses, mais on n'en parlera pas trop. Mais ouais, Donc j'ai arrêté de fumer il y a 10 ans, en 2010, au mois d'août. Et lorsque j'ai arrêté de fumer, à l'époque, bon, je fumais plus d'un paquet par jour, je fumais une trentaine de clopes. J'étais pizzaïolo à côté d'Avignon et j'étais responsable d'une petite boutique de déco la journée. Donc je travaillais beaucoup, je fumais beaucoup, je faisais beaucoup la fête, même en semaine, au-delà de beaucoup de choses. Donc c'est arrivé des jours où je savais plus où j'allais garer ma voiture. Enfin, tu vois, j'étais dans des états qui n'étaient pas vraiment top. Et c'est vrai qu'à un moment, je me suis dit, ouais, il faut que j'arrête les frais. Donc, bon, j'ai essayé plusieurs fois d'arrêter de fumer, mais en vain. Mais voilà, là, j'y suis arrivé. J'ai eu un déclic un jour. Donc, je suis arrivé à tenir le cap une matinée. Après, bah, toute une journée, je me suis dit, bon, bah, c'est plutôt pas mal. Mais à l'époque, je faisais 95 kilos. Et je me suis dit, bah, si tu arrêtes de fumer, il ne faudrait pas que tu compenses dans la bouffe. Donc, je voulais pas atteindre le quintal. Donc, je me suis dit, ben, il faut que je trouve quelque chose, voilà, pour me remettre en forme et changer un petit peu mon mode de vie. Donc, déjà, j'ai changé un petit peu mon alimentation. Pas trop au départ, mais j'ai changé certaines choses. Et surtout, ben, je me suis dit, ben, il faut que je trouve un sport accessible, un sport simple. Donc, j'ai pensé au running. J'ai sorti un short de foot, un vieux t-shirt en coton. Les baskets que j'avais, alors j'ai pas du tout des baskets de course à pied. D'ailleurs, c'est marrant parce que en rangeant pas mal de choses là ici, j'ai retrouvé mes premières chaussures de course à pied. C'était des Nike Shox. Alors, je sais pas si tu te souviens de ces chaussures avec les ressorts derrière là.
Ouais, ça me semble plutôt des trucs de basket à l'origine que des.
Ouais. Donc j'ai commencé à courir avec ça, avec mes 95 kilos. Ça a duré 20 minutes. C'était horrible, mais j'étais arrivé. La première chose que j'ai fait, c'est d'ouvrir une bière pour me récompenser. À l'époque, j'étais en coloc avec un pote. Donc voilà. Et de là, bon, bah, ça m'a motivé. J'ai continué de ne pas fumer. J'ai continué de courir. Bon, là, c'était des 2 à 3 sorties par semaine, mais maximum d'une demi-heure. Et je me suis pris au jeu. Donc au départ, voilà, c'était plus par hygiène de vie. Et je me suis pris au jeu petit à petit. Et lorsque je suis arrivé sur Lyon, que j'ai déménagé sur Lyon pour rejoindre ma compagne, et ben, j'ai voulu découvrir la ville autrement. Parce que bon, quand je suis arrivé, on en parlait juste avant, comme quoi voilà, je peste un peu avec la pollution, les bouchons, etc. Je me suis dit, ben, pour mieux visiter la ville, et ben, je vais le faire en courant. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Lyon, c'est la ville aux deux collines. Et voilà, c'est des bosses qui sont assez hautes. C'est vrai que ça m'a plu, voilà, de monter, descendre, même si je galérais un petit peu. Et surtout, je me suis perdu quelques fois, donc j'ai rallongé les kilomètres et j'ai découvert des endroits verts de la ville de Lyon. Je me suis dit, ouais, les endroits verts, c'est vraiment cool. Et du coup, ça m'a envoyé d'aller faire des courses un petit peu plus longues. Bah, à l'extérieur de Lyon. Alors au départ, c'était vraiment à proximité, à l'entrée de Lyon, dans le 5e, à Francheville, à aller voilà faire plus de la course nature, et après m'orienter vers le trail et de fil en aiguille, bah, je me suis pris encore plus au jeu et j'ai rejoint un club d'athlètes pour pouvoir m'améliorer. Alors le but, c'était pas de faire de la compétition, mais pour pouvoir atteindre et faire des courses un petit peu plus longues et plus techniques, on va dire physiquement. Et après, j'ai fait mon premier trail et ça a été une révélation. C'était à Pralognan-la-Vanoise, un 33 km et 2500, je crois, de D+. Donc, c'était un beau ratio. Et ouais, j'ai totalement kiffé, en fait, cette course et j'ai totalement kiffé, en fait, l'esprit qui s'y dégage. Et de là, je me suis pris au jeu. J'en suis où j'en suis maintenant. Et après, je suis pas un aficionados du trail. C'est-à-dire que pour moi, courir, ben, voilà, c'est mettre un pas devant l'autre et courir. Donc la route, le chemin, la nature, le skyrunning, pour moi, c'est pareil. Tu vois, je peux pas dire que je suis un trailer, je suis un coureur à pied. Voilà, j'adore D'accord. courir et voilà, peu importe l'endroit, si c'est une course sur route, en trail ou pas, je prendrai autant de plaisir. Alors c'est vrai qu'après le trail, on peut voir des espaces magnifiques, des animaux qu'on va pas retrouver dans la ville, tu vois, mais après, voilà, c'est un intérêt différent. Quand tu vas courir sur route, ça va être plus un dépassement de soi, regarder le chrono, etc., vouloir battre un temps, tu vois. Et après, le trail, c'est vrai que c'est plus une évasion. Donc, voilà, en piochant dans l'un, dans l'autre, pour moi, je trouve un épanouissement. Voilà.
D'accord. D'ailleurs, je t'avais croisé sur le... Je sais pas si toi, tu t'en rappelles pas, mais je t'ai croisé sur le salon du running l'an dernier, avant le marathon de Paris. Et il me semble que tu disais que tu avais un objectif de faire des temps sur marathon. Non, tu n'avais pas un projet de ce type-là
Carrément. En fait, si tu veux, moi, j'ai fait un seul marathon. J'ai fait un marathon, c'était le marathon de la côte chalonnaise. C'était un marathon qui n'était pas forcément roulant parce qu'il y avait 600 mètres de dénivelé positif. Alors après, c'était un vrai marathon, hein, vraiment officiel. Donc bon, il y avait 600 mètres de dénivelé avec moitié route, moitié, tu vois, un peu chemin gore. Alors pas du tout technique, hein, mais du coup, tu n'as pas les meilleurs appuis, si tu veux, là-dessus. C'était un peu cendré, si tu veux, tu vois.
Ouais.
Et... du coup, j'ai fait 2h33 et c'est vrai que je me suis dit bon, c'est plutôt pas mal comme temps, donc pourquoi pas faire sur un marathon sec et voir ce que ça donne. Donc c'est vrai que l'idée y est toujours et bien installée. Donc c'est pour ça que sur ma saison, alors là c'est une saison compliquée forcément avec tout ce qui s'est passé dernièrement. Bon, j'ai eu la chance de pouvoir courir deux fois en début d'année, donc j'ai couru au mois de janvier à Hong Kong, où j'ai fait un 45 bornes, et après en Arabie Saoudite, c'était un éco-trail au mois de février. Et après, bon, je devais lancer ma saison de trail qui a été plus compliquée. Je devais partir sur le marathon des sables, sur la CCC par exemple, sur le Mozarsan aussi, qui compte pour l'Ultra World Tour. Mais du coup, bon, ça c'est reporté à l'année prochaine. Donc je vais faire quelques courses de trail en fin d'année. Et c'est vrai que j'ai envie de couper assez tôt, donc peut-être en octobre, tu vois, faire ma coupure mi-octobre, fin octobre, après l'éco-trail de Paris, que je compte faire, s'il est maintenu. Et derrière, faire une coupure et vraiment faire une prépa derrière, donc vraiment vitesse, et essayer de faire des beaux temps sur 10 km semi et marathon. Donc je pense bien lisser le truc, en faisant une Saint-Élion en relais, par exemple, avec des collègues, et puis... vraiment, voilà, on va dire favoriser cette qualité de vitesse, peut-être un retour sur les crosses également, tu vois, pour vraiment travailler le pied et être vraiment performant, voilà, dès l'entrée des trails et faire plus spécifique derrière. Et ouais, après, peut-être, tu vois, faire un marathon rapide comme Séville, peut-être, tu vois, des courses en début d'année ou Valence, tu vois, non, Valence, c'est avant, je crois. Mais enfin, faire un marathon, ouais, un marathon rapide.
D'accord. Mais alors, ce qui est incroyable quand même, c'est que tu dis que tu pesais 95 kilos il y a finalement 10 ans. Tu dis, bon, je me suis pris au jeu, mais être rapide et courir autant comme ça, c'est. Tu penses que tu avais des qualités de départ? Qu'est-ce qui fait que tu arrives à ce niveau-là, en fait?
Alors, après, je pense, ouais, que j'ai eu des. Que j'ai des prédispositions, tu vois. Mais après, tu vois, dans un sport comme le running, qui est quand même un sport qui est quand même difficile, tu vois, un sport individuel, s'il n'y a pas de travail, malgré que tu aies des prédispositions, je pense que s'il n'y a pas de travail, tu peux pas y arriver, tu vois. Donc, je pense que pour tout le monde, hein, donc il y a beaucoup de travail derrière. Après, je savais pas où j'allais aller. J'ai commencé à courir, voilà, par hygiène de vie. Donc, j'ai eu la chance d'y aller progressivement. Et je pense que c'est ça aussi qui fait peut-être ma force. C'est que, en fait, depuis que j'ai commencé à courir, je me suis écouté, tu vois. Et je ne suis pas rentré dans un phénomène aussi addictif où il fallait que je coure tout le temps, tu vois. Et là, par exemple, en ce moment, j'ai changé pas mal de choses dans mes entraînements. Je m'entraîne... 20 à 25 heures par semaine, donc c'est vraiment beaucoup, en polarisant, donc beaucoup avec le vélo aussi, donc tout ça rentre dans ce volume horaire. Mais tu vois, quand je vais avoir une journée de repos comme j'ai eu hier, enfin j'ai switché, normalement je devais la faire aujourd'hui, mais je l'ai faite hier, ça m'a fait du bien, tu vois, j'en ai besoin. Et quand j'ai commencé à courir, en fait, je me suis beaucoup écouté là-dessus, j'y suis allé progressivement, quand j'avais mal quelque part, j'attendais. En fait, il fallait toujours qu'il y ait cette notion de plaisir et c'est tellement important, en fait, cette notion que il y a beaucoup de gens, quand ils commencent à courir ou quand ils veulent en faire plus, cette notion de plaisir, au final, tu te rends compte qu'ils l'ont plus, tu vois. Ils courent pour courir et moi, si je rentre dans ce phénomène-là, j'arrête la course à pied, tu vois. Donc voilà. J'y suis allé progressivement. Certes, j'ai peut-être quelques prédispositions, mais il y a quand même un énorme travail qui est derrière. Et puis, on le sait tous, la course à pied, c'est un sport qui est tellement ingrat que du coup, bah ouais, il faut vraiment du travail, de l'écoute, de faire des petites choses à côté. Voilà, c'est un mode de vie, comme je l'ai dit au départ. J'ai voulu changer de mode de vie et la course à pied, en fait, m'a beaucoup aidé là-dedans. Donc, elle m'a aidé à m'épanouir sur pas mal de choses, mais aussi à découvrir les légumes, par exemple, que je mangeais pas du tout. Enfin, tu vois, à être plus résistant. Je vais plus voir le médecin maintenant, tu vois, depuis que j'ai arrêté de fumer. Enfin, tu vois, c'est pas des bêtises, hein, ce qu'on dit, hein. C'est que, voilà, ça baisse ton système immunitaire de ne rien faire, de pas fumer, enfin de fumer, enfin voilà, de mal manger. Tu vois, moi quand je vois des personnes qui parlent du body positive, j'en parle vite fait parce que c'est pas le sujet, mais de s'accepter, d'être ronde, etc. Je veux bien, mais le problème après c'est que tu t'acceptes comme ça, c'est super bien, mais après derrière, tu vois, c'est pas bien pour ton corps, tu vois.
Ouais.
Pour ton corps, c'est pas bien. Pour ta tête, c'est bien. Mais pour ton corps, c'est pas bien parce que derrière, tu vas engendrer plein de maladies et c'est pas bien. Du coup, je vois certaines personnes qui mettent en avant ça et moi, ça m'énerve des fois en me disant « Ouais, c'est bien, tu donnes confiance à d'autres personnes, ça, c'est super bien. » Mais par contre, bah, tu les incites à rester comme ça et du coup, à être peut-être plus tard en très mauvaise santé à cause de ça, tu vois. Et ça, c'est pas un bon exemple. Enfin, bref, voilà.
Ouais.
Mais du coup, voilà, il y a pas mal de choses à côté qui m'ont permis de progresser et beaucoup de travail, ouais.
Ouais, et en fait, c'est ce qui m'intéresse parce que t'es vraiment l'exemple. Alors, dans les auditeurs du podcast, on se surnomme maintenant les hamsters et c'est le Hamsters Running Club parce que, en fait, c'est exactement ça que tu décris et c'est pour ça que je tenais vraiment à t'avoir dans le podcast. Parce qu'on est plein en fait. Moi, je faisais 105 kilos il y a 4 ou 5 ans. J'en ai perdu 27 ou 28 hein, avant de devenir marathonien. Bravo. On a des gars dans le groupe qui en ont perdu 40 ou 50. Tiens, hier j'ai vu, je me rappelle pas des prénoms, mais je crois que j'en ai vu un 50 kilos en moins qui veut faire de l'ultra, voilà, des choses comme ça. Donc on parlera un petit peu de tes conseils d'ultra, mais et c'est vrai que cette histoire de plus aller voir le médecin, moi j'avais dit un jour dans un autre podcast que j'anime, j'ai dit mais je suis passé de quelques visites par an chez le médecin à plus de visites du tout. Ma seule visite, c'est mon certificat médical pour avoir le droit de m'inscrire au club.
C'est ce que je dis à chaque fois. C'est moi quand je vais le voir, c'est juste pour ça, tu vois. Donc c'est marrant, c'est juste pour le voilà pour. Pour remettre à jour ta licence, quoi.
Ouais. Et ce qui est marrant, c'est qu'elle me dit, alors, elle me fait un petit électrocardiogramme, parce que comme j'ai dépassé les 40 ans, j'en ai un tous les 2 ans maintenant. Et elle me prend mon pouls, elle me prend tout ça, elle me dit, ah, ça se voit que vous courez quand même, c'est très bas, votre fréquence cardiaque, c'est parfait, votre cœur va bien, c'est nickel. Et c'est vrai que elle m'a connu dans l'époque à 105 kilos, et elle me regarde et elle me dit, oui, je peux pas vous empêcher de courir. Franchement.
Ouais.
Et c'est vraiment un élément important.
Ouais. Ouais, bah carrément. Moi, j'ai eu la même anecdote. Et je me suis fait opérer il y a 2 ans, tu vois. Et quand on m'a mis, si tu veux, toutes les électrodes sur moi, tu vois, j'avais une anesthésie générale. La personne m'a demandé si j'allais bien parce que mon pouls était super bas avant l'opération, tu vois. Et je lui dis non, mais vous inquiétez pas, c'est que je cours et tout. Ah bon, bah ça va, tu vois. Donc ouais. Mais c'est bien, ouais. Du coup, on est beaucoup plus résistant aussi à pas mal de maladies. Quand il y a un virus autour, ben ouais, on est plus là à pouvoir vaincre, tu vois, ces épidémies de gastro, de grippe, etc. Ou même à se régénérer beaucoup plus rapidement, quoi. Donc c'est vrai que le sport, je dis pas à outrance, mais le sport, je pense qu'il faudrait que ça fasse partie intégrante de notre vie, quoi. Voilà, de bouger, le manger, bouger. Il y en a, ça fait rire quand on entend manger, bouger, mais c'est tellement important de bien manger et de se faire plaisir en sport. Après, il ne faut pas non plus regarder et peser ce qu'on a dans son assiette. Mais il faut savoir se faire plaisir à côté, récompenser son corps. Bah, après, à peser les aliments qu'on a dans son assiette. Non, il faut aussi savoir se faire plaisir, se récompenser. À boire une bière pour ceux qui aiment boire une bière, un verre de vin ou juste manger du chocolat. Il faut rester la course à pied, c'est un sport qui est tellement éphémère que tout peut s'arrêter du jour au lendemain, tu vois. Donc, il faut savoir faire plaisir. Voilà, la vie est, vaut d'être vécue, donc voilà. Donc, il faut se faire plaisir quand même à côté.
Alors, on avait dit, je suis tout à fait d'accord avec toi, tu as parlé de travail quand même, de dire il y a beaucoup de travail pour arriver à ce niveau. On a du mal à imaginer quel est le quotidien d'un sportif, parce que finalement, est-ce que tu es un sportif pro? Comment tu te présentes
Non, ben moi, en fait, quand on me demande ce que je fais dans la vie, je dis je travaille dans le sport, tu vois. Au moins, c'est assez large. En gros, j'accompagne des gens déjà. Ça, c'est ma principale activité, c'est-à-dire que j'accompagne des gens avec de la programmation d'entraînement, donc je leur donne des outils pour leur dire quoi faire, vélo, course à pied. Je m'adapte en fait à leur vie socio-professionnelle, si tu veux. Et du coup, en fonction de la personne, ben voilà, je leur fais de la programmation d'entraînement. En plus de ça, ben, j'essaye de faire quelques visios. Ça, en fait, c'est tout nouveau. Je l'ai fait depuis le confinement, où je voulais garder, tu vois, quand même une émulation avec les personnes que j'entraîne. Et du coup, maintenant, je fais des visios 2 à 3 fois par semaine, où voilà, je donne quelques conseils et au moins, il y a un suivi, tu vois. Et puis, j'essaye de rester sur quelque chose d'assez social. Donc, où ils communiquent entre eux, où on partage beaucoup de choses entre nous, voilà, histoire d'être transparent et voilà, rester sur quelque chose de fun, quoi. Donc voilà, ça c'est ma principale activité. Après, j'ai créé une petite marque de vêtements que j'essaye de développer avec ma compagne et maintenant plusieurs ambassadeurs de la marque. D'ailleurs, j'ai lancé une petite campagne ambassadeur il y a quelques mois et voilà, j'essaye d'en avoir des nouveaux un petit peu dispatchés dans la France entière. Ça s'appelle I Am Woodstock. Là, on vient d'ailleurs de recevoir la nouvelle collection. Donc, on travaille sur ça aussi, entre bah voilà, les réseaux sociaux qu'il faut alimenter pour montrer les nouveaux produits, montrer l'activité de la marque, le site internet, les envois des colis, répondre aux gens. Enfin, ça fait pas mal de boulot aussi. Et puis, à côté, bah voilà, il y a la course à pied. Alors après, moi, sincèrement, tu vois, je gagne pas des 100 et des 1000 grâce à la course à pied. Hein. Le but, c'est vraiment de me faire plaisir, d'essayer de voyager tant que je le peux, de faire découvrir en fait ce que je fais aux gens qui peuvent pas le faire. Ou tu vois, quand je vais faire une course, par exemple à Hong Kong ou en Arabie Saoudite, je pense que c'est un bon exemple. Parce que moi, j'y suis allé un petit peu à reculons au départ en Arabie Saoudite, tu vois. D'ailleurs, ma femme m'a pas accompagné parce que je préférais pas. Et au final, c'est vrai que c'est un pays qui s'ouvre petit à petit, je dis pas qu'il est ouvert, hein, parce qu'il y a encore il y a des dizaines et des dizaines d'années à travailler encore, je pense, mais c'est un pays qui est tellement magnifique à voir, franchement, tu vois, et ça casse un petit peu tous les codes qu'on peut penser, et voilà, du coup, j'aime bien partager ça, partager avec les gens qui me suivent et dire, bah voilà, j'essaye d'être proche, tu vois, avec les gens, tu vois, comme je l'ai fait, par exemple, quand on s'est vu au salon du running. Enfin, je suis pas une star de la course à pied, tu vois. Donc, moi, je suis plus là à échanger avec les gens, à dire, bah voilà, j'ai eu la chance de pouvoir aller là. Si tu veux des petits conseils, n'hésite pas à me contacter. J'essaye de répondre, tu vois, aux gens tant que je peux. Parce que j'ai quand même des journées bien remplies, tu vois, entre 20-25 heures d'entraînement par semaine, les entraînements à gérer, les planifications, les visios, la marque, etc. Plus les réseaux sociaux, parce que je suis assez actif dessus, donc ça fait des journées très remplies. Voilà, c'est pour ça que je dis, bah voilà, moi je travaille dans le sport et non, je suis pas professionnel. On va dire peut-être sportif de voilà élite ou haut niveau, tu vois, mais je suis pas sportif pro, quoi. Non, non.
Oui, ou disons que tu es sportif pro à ta manière, en fait, avec différentes activités, mais que finalement, il y a tout un ensemble de choses qui font que la marque, j'ai envie de dire, hein, autour de toi, Jonstuck et Yann Woodstock, fait que la course à pied fait un support de tout ça, en fait, hein, tout un univers, quoi.
Ouais, c'est ça. Bah, en fait, c'est un joli triptyque, si tu veux, tu vois. C'est trois activités-là et comme je le disais tout à l'heure, tu vois, comme l'alimentation, le sport, ben en fait, c'est un épanouissement personnel. Je me dis, en fait, grâce à la course à pied, ben, j'arrive à gagner ma vie. Tu vois, moi, je me satisfais de très peu. Tu vois, là, je suis dehors avec le bruit des cigales. Pour moi, voilà, je passe un bon après-midi. Tu vois, Après, je suis pas un bisounours, hein, attention, hein, mais voilà, je me satisfais de peu et j'ai pas besoin de gagner 2 à 3 000 euros par mois, tu vois, j'ai pas besoin de gagner tant. Je préfère utiliser mon argent pour aller voyager, pour montrer des endroits à ma fille qui a 5 ans, tu vois, maintenant, lui faire découvrir plein de choses parce que je trouve que c'est beaucoup plus épanouissant que ça. Enfin, voyager quand t'es petit, tu vois, tu comptes beaucoup de choses, c'est intéressant. Et puis voilà, et puis moi j'apprends sur moi tous les jours et j'en apprends tous les jours aussi en bougeant à droite et à gauche. Et c'est tellement enrichissant, épanouissant que que c'est génial. Donc ce côté entrepreneurial est vraiment génial, quoi.
On parlait de travail. On va parler un peu d'entraînement parce que quand même, on se dit mais comment il fait. Alors si on te suit sur les réseaux sociaux, on voit que tu as du volume. On t'a vu monter le Ventoux, je sais pas combien de fois là ces derniers temps. On a l'impression que tu es toujours en train de le monter, de le descendre.
Si tu veux, moi je suis un coureur au départ qui court assez vite pour un coureur de trail. J'adore les parties c'est très roulantes où tu sais où il y a du petit vallon, des relances. Donc là c'est vraiment un gros point positif que j'ai. Tu vois, j'ai une assez bonne vitesse de base contrairement à certains. Bon après il y en a qui courent beaucoup plus vite que moi, mais bon ça c'est vraiment mon point fort. Et du coup techniquement c'est vrai que en montée j'ai pas trop ce problème-là à part quand c'est de la montée très technique. Et par contre, quand c'est de la descente très technique, alors là, j'étais vraiment, mais vraiment à la rue, tu vois. Et du coup, il fallait que je travaille ça. Et c'est vrai que le Ventoux, quand t'es à la rue, en descente, bah, le Ventoux, tu vois, il te montre qui il est, tu vois. Donc, c'est pour ça que j'allais tout le temps au sommet, parce qu'au sommet, c'est où il y a la plus grosse caillasse. Donc, c'est pour ça que quand on le voit de loin, le Mont Ventoux, on croirait que c'est de la neige, mais en fait, c'est uniquement des cailloux. À part en hiver, mais je vais là-dedans, tu vois, et j'essaye de travailler, voilà, la posture en descente, la fréquence en descente, la vision de la descente, tu vois, gérer un petit peu sa trajectoire, sa pose de pied, savoir où poser le pied, savoir où bien regarder, tu vois. Et en fait, ça c'est très très long à mettre en place. D'ailleurs, aujourd'hui, tu vois, je me suis tordu un petit peu la cheville, bon, je pense que ça ira, mais du coup, j'essaye de beaucoup bosser là-dessus. Tu sais, je suis besogneux et du coup, je sais que ça, c'est quelque chose que je dois travailler. Alors, ma fin de saison, tu vois, je vais faire Belle-Île en trail et l'éco-trail de Paris. On n'a pas besoin forcément d'être très technique sur les terrains, mais du coup, je prépare ça, tu vois, plus pour 2021. Parce que c'est un travail très long, c'est long à assimiler. Donc, tu vois, donc c'est pour ça que le Ventoux, ouais, la semaine dernière, je crois que je l'ai monté 4 fois dans la semaine, tu vois. Et là, cette semaine, bah, je l'ai monté 2 fois. Demain, je vais le monter encore à vélo en faisant un enchaînement. Après, en montée, bah, toujours dans les pentes du Ventoux. Du coup, tu vois, un enchaînement vélo-course à pied comme ça. Donc c'est pour ça que là, en ce moment, ouais, je suis à fond dans le Ventoux. Et puis après, ce qui est pas mal, c'est que je vais partir sur la Plagne prochainement et qui est ma station de cœur. Et du coup, j'ai essayé de encore mettre ça en place, encore en plus sur des crêtes, tu vois, et vraiment me faire le pied là-dessus parce que c'est très frustrant pour moi parce que j'arrive à faire quelques assez bons résultats, tu vois, sur des courses où il y a un petit peu de niveau. Et en fait, je pourrais faire mieux parce qu'en fait, voilà, on me défonce en fait dans les descentes. Enfin, tu vois, je peux perdre des places et c'est ultra frustrant, quoi. Tu te doubles une fois, tu essayes d'accrocher, tu te fais doubler une deuxième fois, troisième fois, puis au bout de la 15e personne, tu dis, ouais, enfin, tu vois, c'est décourageant. Donc, c'est frustrant parce que tu fais le job à côté. Donc, voilà, là, je travaille différemment. Je suis accompagné par quelqu'un et qui me fait énormément travailler ça, qui me fait bosser, tu sais, beaucoup en VTT pour travailler l'engagement dans les descentes, tu vois. Où j'essaye de reproduire en fait le même mouvement, tu vois, quand il y a une grosse descente technique. Donc voilà, c'est vrai que j'ai le buste bah, qui commence à aller plus vers la pente, tu vois, donc c'est positif, au lieu de plus se reculer, tu vois. Même si tu le sais dans ta tête qu'il faut engager, bah, tu ne le fais pas forcément. Donc en le faisant, en refaisant, bah, c'est pour ça qu'en ce moment, bah, je suis boulimique du Ventoux, mais voilà, c'est l'endroit le mieux pour travailler vraiment voilà, le pied, la cheville, etc. Donc on va voir ce que ça donne. Et puis voilà.
Ouais, mais je sais plus qui c'est qui me l'avait dit, parce qu'un jour dans les rocos, j'en ai discuté avec quelqu'un. Je sais plus si c'est Laure Blanchet ou Patrick Bringer qui disait qu'il y a beaucoup de courses qu'on perd dans les descentes, en fait. Hein, c'est ouais, en c'est trail. Hein.
Ah, mais totalement. Hein, moi, je vois des courses, c'était vraiment catastrophique, quoi. Et du coup, tu subis, tu vois. Alors, au final, tu mets moins de jus parce que t'es tellement nul que ton cardio, il est très bas, tu vois. Mais bon, derrière, après, t'es obligé de faire l'effort, en fait, de relancer pour pouvoir raccrocher. Enfin, tu vois. Donc, c'est vrai que, tu vois, tu vas faire une course comme les Templiers où t'es bien placé, tu vois, au début, parce que c'est quand même assez roulant, les Templiers, où tu peux bien courir sur les plateaux, tu vois, relancer sur les plateaux, sur les parties qui sont pas très longues. Mais au final, t'es bien placé. Dans la dernière descente, tu sautes, tu te fais sauter par tout le monde. Bah, c'est hyper, hyper frustrant, tu vois. Donc, du coup, voilà, c'est pour des courses comme celle-ci, comme la CCC que je veux faire, ou la tête au vent, c'est la partie un peu plus technique, tu vois, sur la fin. J'ai pas envie de perdre des places alors que t'es assez bien placé au départ, tu vois. Donc, voilà, il y a juste une course, c'était la 6000D où j'avais bien fini sur la fin, tu vois, mais parce que c'était très roulant. Donc voilà. Mais bon, on va voir.
D'accord. Donc toi, tu dis, hein, t'es un boulimique. T'as une philosophie dans le, t'es plutôt qualité, quantité, technique. T'as parlé de technique. C'est quoi? Tu dis, faut un peu de tout. Comment tu vois un petit peu ton entraînement, en fait?
Bah après, ça dépend ce que tu prépares déjà comme course. Je pense que si tu veux faire, tu vois, vraiment course en montagne, skyrunning, tu vois. Des courses assez courtes, on va dire, en distance, mais avec un énorme dénivelé, tu vois, où il y a un ratio qui est énorme. C'est vrai que faut vraiment avoir un travail spécifique là-dessus. Moi, je suis pas, comme je te le disais tout à l'heure, je suis pas là pour courir, faire des bornes. J'en vois certains qui font ça. Si tu fais ça, c'est synonyme de blessure au bout d'un moment. Et quand la blessure, elle arrive, je pense qu'elle va mettre du temps à partir, tu vois. Mais non, après, c'est vrai que la qualité, c'est vraiment la. C'est, pour moi, ouais, c'est ce qui prône. La qualité, c'est quand tu as une séance à faire, il faut vraiment être bon sur la séance, tu vois, respecter un échauffement très lent, et après être vraiment focus dans ta séance, faire vraiment une séance qualitative, tu vois, qui t'apporte quelque chose. Alors, soit sur un travail spécifique, soit sur un travail de vitesse, sur un travail de tempo. Et puis après. Ce qui est très important et ce que beaucoup de gens oublient, c'est de courir lentement. Et ça, c'est dingue de dire ça. Des fois, tu as des gens, ils te regardent bizarrement, mais courir lentement, c'est tellement important. Parce que moi, je vois des personnes qui courent en footing, je me dis, mais les mecs, comme ils courent, ils doivent déchirer sur 10 km, tu vois. Et en fait, quand tu vois le mec qui fait un marathon ou un semi derrière, il est quasi à la même vitesse que son footing. Et enfin, je le vois, hein, j'ai des personnes que j'entraîne, quand je leur dis, tu vois, qu'il y a trois allures différentes entre le footing et le marathon, tu sais, ils me regardent bizarrement, tu vois. Et en fait, ils comprennent qu'une allure marathon, c'est une allure soutenue, tu vois. Et ils se rendent compte que leur footing, en fait, est trop soutenu par rapport à ce qu'ils font. Et du coup, quand tu cours trop vite, pour ton échauffement, pour une séance, bah, du coup, tu as déjà grillé des cartouches pour ta séance. Donc, tu fais pas une séance qualitative. Et surtout, c'est que quand tu fais tous tes footings autour de tes séances, tes footings de récupération active, de polarisation, quand tu veux rajouter du volume, le problème, c'est que quand tu as ces footings-là, c'est vraiment pour rajouter du volume et pas créer de la fatigue supplémentaire. Et en fait, les gens, comme ils courent au-dessus, bah, ils créent de la fatigue supplémentaire et petit à petit, bah, ils sont cramés dans leur bloc de préparation. Donc, il faut vraiment voilà, respecter des footings lents. Et voilà, moi, ça m'a fait bizarre au départ quand on m'a dit non, mais tu cours trop vite. Et du coup, tu vois, je fais des footings à 12 à l'heure. J'ai mon cardio, je suis à 105-110, tu vois. Je me dis, c'est pas normal de courir à cette vitesse-là. Mais en fait, si. Et en fait, tu te rends compte que voilà, c'est hyper important. Tu vois, aujourd'hui, au Ventoux, le trois quarts du temps, je marche. Tu vois, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'endroits où tu dois marcher, mais mon cardio, il doit pas dépasser les 135, 140. Alors après, maintenant, tu vois, je suis pas focus sur ma montre, mais je sais quand je suis trop haut ou trop bas. Donc voilà, il faut chercher vraiment l'aisance respiratoire et puis au contraire, pour derrière, en descente, essayer d'envoyer et d'être, si tu envoies trop en montée, bah après, tu n'as pas la même vision en descente, tu es fatigué, tu as moins géré, tu vois. Donc voilà, c'est tout un travail de patience. De toute façon, le course à pied, c'est un sport de patience et un travail sur soi.
Ouais, mais c'est marrant parce que c'est vraiment le genre de conseil. Alors que moi je racontais des anecdotes sur des trails où j'ai vu des coureurs s'épuiser à monter en courant pendant que moi je marchais à côté.
Ouais,
donc forcément, je te laisse imaginer la relance, comment ça s'est passé pour eux et pour moi. Pourtant, avec mon niveau à moi qui est tout petit, donc déjà j'imagine pas après comment ça, toi avec ton niveau quand tu relances, quand tu peux repartir, parce que tu dis à 12 km en maximum, c'est-à-dire tes jogging, tes choses comme ça là en fait.
Ouais. Tu vois, par exemple, je vais te donner un exemple. Bon, demain, j'ai ma séance enchaînée, monter du Ventoux, descendre, pédaler un petit peu et partir en côte. Et le lendemain, je dois faire 25 km en 2 heures. Donc, tu vois, ça fait du 12,5 de moyenne. Et au départ, je dois partir vraiment calmement à 11 et finir peut-être à 14, tu vois, mais pas dépasser les 14.
D'accord.
Alors qu'avant, tu vois, je faisais mon footing, sur les quais à Lyon. Je suis à 4,10 au kilo, quoi, tu vois. Et tu vois, en regardant ma montre, à 4,10 au kilo, je suis à 130 en pulse. Et en fait, c'est trop rapide. C'est trop rapide. Donc, c'est vrai qu'il faut s'adapter, mais au final, bah, tu profites beaucoup plus de. Tu vois, t'es pas tout le temps en prise sur tous tes entraînements, quoi. Donc, bah, tu profites et tu regardes, tu cours plus doucement et c'est plaisant au final.
Ouais. Alors j'ai vu aussi quand même, alors quand on parle de polarisation, c'est qu'il y a quand même des moments où tu envoies tout ce qu'il y a à envoyer. Et notamment, j'ai vu que tu étais un adepte du jerk.
Ah bah ouais, pour moi, c'est la séance la plus qualitative, le jerk, tu vois. Ce qui est bien, c'est que pour quelqu'un qui n'a pas trop le temps, en fait, tu vois, pour s'entraîner, le jerk, c'est pas mal parce que c'est une séance qui est assez courte, tu vois.
Ouais, alors on va réexpliquer le principe, en fait, hein, du jerk. Vas-y, je te laisse expliquer le principe.
Ouais, en fait, t'as deux façons, en fait, de travailler le jerk. Donc, tu peux le travailler en côte, déjà. Donc, en gros, c'est un travail en côte. On va pas chercher de la PMA. Donc, c'est pas quelque chose vraiment en aérobie. Donc, on va chercher quand même de soutenu, mais pas au max non plus. Par contre, avec une récup très active. Donc, soit on prend, on va dire, on va partir 1 minute en côte et on va redescendre jusqu'au point de départ en 50 secondes, tu vois. Ça, c'est un exemple, tu vois. Donc, c'est une descente assez active et on va enchaîner là-dessus. Soit après, on peut faire aussi un travail différent en côte où on va faire du 1 minute, 1 minute, donc montée-descente. Après, 1 minute, 50 secondes et 1 minute, 40 secondes, tu vois, pour finir vraiment sur une dérive cardiaque assez haute avec un décrochement, tu vois, là-dessus. Puis après, sur le plat, c'est pas mal aussi. C'est en gros un bon travail, on va dire, vitesse, un petit peu en dessous de sa VMA. Par contre, avec une récup courte et active. Donc, voilà, des fois, quand je vais faire, je peux faire des 30-30, par exemple, un travail classique. Je vais faire des 30 secondes, on va dire, un peu plus modéré. Donc, je vais être à 3 au kilo, par exemple. Et par contre, les 30 secondes, je vais les faire à 4-10, tu vois. Donc, on est vraiment sur quelque chose où le cardio, il baisse très peu, tu vois.
Ouais.
Donc, tu pars pas sur une séance de 30-30 où tu vas faire 2 fois 15 fois, parce que sinon, c'est pas tenable, tu vois. Mais tu vas peut-être le faire 15 fois d'un coup, tu vois. Mais en fait, tu vas vraiment faire un bon travail cardio avec une récup haute. Et c'est vrai que du coup, ça fait un entraînement moins long. Et pour les gens qui ont pas trop le temps, tu vois, ça, c'est vraiment quelque chose de très qualitatif. Voilà.
Ouais, et puis j'ai vu que tu rajoutes aussi des trucs type de la chaise, des choses comme ça, j'imagine, hein, dans tout ce qui est renforcement qui est important.
Ouais, bah, le renforcement, c'est la base de tout. Hein. Ça te permet d'être plus solide en course. Enfin, moi, aux gens que j'entraîne, pour moi, le but, c'est, je leur dis, la manière que vous avez, enfin, votre posture que vous avez au départ, il faut avoir la même à l'arrivée. Tu vois, donc il faut pas subir une course. Et pour pas subir une course, c'est le renforcement, c'est les abdos, c'est le haut du corps, la chaîne scapulaire, les pecs, les épaules, le dos. C'est pas en faisant du renforcement musculaire qu'on va être qu'on va prendre du poids, tu vois, musculairement. On fait tellement de volume à côté que, enfin, pour ceux qui courent et qui prennent le temps de faire du renforcement musculaire, vous n'allez pas prendre forcément du poids en vous musclant. Au contraire, on va moins ressembler à des ablettes, tu vois. Donc c'est plutôt pas mal aussi, tu vois. Mais ouais, c'est tellement important et c'est surtout, ça évite de se blesser, quoi. Tu vois, de bien travailler. Ouais. Tu parlais de la chaise, tu vois, tu peux faire des entraînements de chaise enchaînés avec du travail de pied. Enfin, c'est tellement important et intéressant. Après, tu peux faire du travail de chaise aussi, tu sais, enchaîné avec de la côte. Ça s'appelle le Mio Cross Max. C'est aussi un entraînement qui est vraiment aussi utile, tu vois, que ce soit pour le trail ou sur la route, tu vois. Les gens qui font de la route, ils oublient beaucoup, tu vois, tout ce qui est assouplissement, renforcement. Et pourtant, tu vois, des mecs comme Hassan Chadi, par exemple, qui prônent le renforcement. Quand tu vois ce qu'il arrive à faire, tu dis, ouais, le mec, il en fait du renforcement, tu vois. Et c'est tellement important. Puis le travail de pied aussi, tu vois, avoir une vraie foulée, quoi. Une foulée rasante pour ceux qui font de la route, une foulée économe pour ceux qui font du trail et de la longue distance. Le travail de foulée, la foulée décomposée, le gratté de pied, le bon positionnement du pied, c'est tellement important aussi. Et ça, bah, ça passe par le renfo, par le circuit training, par du travail de gamme. C'est vraiment important. C'est la face cachée de la course à pied et que plein de gens mettent de côté parce qu'il faut dire les choses comme elles sont. C'est vrai que c'est chiant, quoi. Mais voilà, après, tu vois, faire un petit footing de 45 minutes et à la place de 50 minutes, parce que tu as l'habitude de faire 50 minutes, tu fais 45 minutes et tu arrives chez toi, tu fais 5 minutes de gainage et quelques pompes, bah c'est mieux que d'avoir fait 50 minutes, tu vois, sans avoir rien fait derrière, quoi.
Bah ouais, et en plus, tu vois, tu valides exactement. Alors, les gens, ils me regardent sur Instagram quand je vois faire mon programme, mais ce que tu as dit tout à l'heure, le programme de chaise, c'est ce que j'ai fait l'autre jour. Donc, ils m'ont regardé avec des grands yeux sur. J'ai mis ça en story sur Insta. Ils m'ont dit, oulala, ça doit piquer ce truc-là. Je dis, oui.
Et ouais.
Oui, ça a piqué, mais ça fait du bien. Surtout, j'ai rajouté. J'avais 100 pompes. Hein, moi, c'était un petit parcours 100 pompes, 10 minutes de chaise, 10 minutes de vite, tu vois, et puis un okay. peu de marche, etc. Mais 10 fois, 1 minute. Et donc ils m'ont regardé un peu, ils ont dit ah, ça doit piquer. Je dis oui ça pique, mais pour le mental c'est bon en plus hein, pour le travail du mental, c'est super intéressant.
Ah ouais, là tu fais un sacré travail de mental, c'est vrai.
Et j'avais fini ma story en disant celle-ci elle a fait mal aux jambes, mais j'en ressors, j'ai l'impression que je peux tout avaler maintenant derrière la moindre côte qui va arriver, je me sens à fond. Et donc ça c'est des éléments, c'est vrai que c'est intéressant, qui sont difficiles à travailler quand même, parce qu'on dit travail de faire des gammes, etc. C'est pas si simple que ça à travailler. Est-ce que tu aurais une astuce, tu vois, de dire un exercice à faire par exemple que tu vois assez simplement qu'on peut intégrer?
Bah, déjà en fait ce qui est pas mal, le travail de gamme, tu vois, tu faut partir vraiment sur les fondamentaux, les jambes tendues, talons fesses, talons fesses, montée de genoux, tu vois, et toujours vraiment dans une décomposition de la foulée avec à chercher à une bonne mobilité de la cheville pour le gratter, pour travailler vraiment tout ce qui est propulsion, tu vois, le mouvement de la hanche, que la hanche s'ouvre bien. Après voilà, des petits gestes comme ça. Et ça après tu vois, tu vas sur YouTube, tu tapes, je sais pas, un mot-clé, tu vois, gamme, course à pied ou montée de genoux, etc. Et tu vois vraiment, en fait, le bon travail de partir sur des bonnes bases, tu vois. Et en fait, tu te concentres. Et après, partir sur... comme quand tu vas faire une séance, tu pars sur 20, 30, 40 minutes d'échauffement et derrière, tu fais 10 à 20 minutes de gamme. Alors, c'est sûr que bah, là aussi, hein, tu travailleras ton mental. Mais c'est vraiment important, quoi. Parce que derrière, en fait, c'est... t'es beaucoup plus performant et puis même tu te blesseras moins, tu vois, t'es performant économique, t'es dans la gestion, t'as une belle foulée et puis tu parles d'Instagram, bah, tu pourras mettre une belle photo Instagram au lieu d'une photo avec une attaque talon où tout le monde va te traquer sur Instagram, tu vois, alors que là t'auras une foulée avec une belle propulsion, tu vois, où tu te prends en photo quand tu fais tes foulées bondissantes, tu vois, c'est Non, mais et puis là, t'as la vraie photo d'Instagrammeur, quoi, tu vois. Mais ouais, voilà, c'est vraiment important, tu vois, ce travail de. Il faut le faire au moins une fois par semaine ou toutes les deux semaines, tu vois. Au lieu de faire voilà une heure de sortie, bah tu fais, t'inclus dedans 20 minutes de gamme ou 10 minutes de gamme, c'est déjà pas mal, quoi, tu vois. Et après, ouais, il faut regarder sur Internet, il y a quand même. Il y a quand même maintenant pas mal de tutos, on va dire, où même t'as certains pros, je reparle d'Hassan Chadi, mais après il y a d'autres coureurs à pied. Il faut plus aller regarder les coureurs de route, tu vois, où ils ont fait une école d'athlètes, tu vois. Et sur l'école une école d'athlètes, ça t'apprend tout, tu vois. Ça t'apprend vraiment les fondamentaux, les trucs. T'es petit, t'es bête et discipliné, donc tu suis ce qu'on te dit. Et au final, ça t'apportera vraiment énormément. Quand tu regardes la plupart des trailers, tu vois, des mecs comme Julien Rancon, Manu Messa, François Denne même, ils viennent de l'école d'athlètes. Ils ont fait de l'athlète petit, ils faisaient les interclubs, tu vois. Du coup, ils ont quand même des fondamentaux qui sont vraiment super bien développés. Après, voilà, c'est des extraterrestres derrière, mais ils ont des bonnes bases et c'est pour ça qu'ils courent très bien. Et surtout que voilà, ils ont un très bon rendement, quoi, en dehors du reste, quoi.
D'ailleurs, pendant le confinement, tu faisais tes séances en live, hein, tu proposais des séances de renfo. C'était quoi, le mercredi ou je sais plus quel jour c'était?
Ouais, c'est ça. Alors peut-être que je vais peut-être en les refaire, tu vois, parce que j'ai eu pas mal de demandes en fait, parce qu'ils trouvaient ça pas mal. Donc tu vois, c'était plus un renfo adapté à tout le monde, un petit peu cardio, tu vois, à faire chez toi. Donc il suffisait que t'aies autour de toi 2 mètres, tu vois. Et un mur et une chaise, et du coup j'essayais de faire des petits renforts comme ça, voilà. Moi ça me prenait 15-20 minutes de mon temps, c'était pas grand chose, tu vois. Et du coup les gens se connectaient et puis voilà, la plupart étaient contents. Donc après j'ai arrêté lors du déconfinement, mais c'est vrai que c'est un truc que je vais peut-être remettre en place, que j'ai gardé en fait avec les gens que je suis. Mais pourquoi pas le faire, tu vois, direct en live les mercredis ou mardi, enfin voilà, ce serait pas mal, ouais.
Ouais, alors ceux qui te suivaient sur Instagram aussi, ceux qui te suivent, ils t'ont vu sur ton home trainer, je ne sais pas combien d'heures tu as passé sur ton home trainer.
Ah ouais, il y a une semaine, je crois que j'ai fait 25 heures de home trainer, donc là, j'en suis pas très fier, tu vois. Mais ouais, en fait, il y avait pas mal de courses, tu vois, et je me suis pris vraiment au jeu, et par contre, tu vois, au bout de la deuxième semaine, je commençais à être bien fatigué, tu vois. Et du coup, ouais, enfin, c'est le seul truc que j'avais, parce que j'essaie de vraiment respecter, tu vois, le truc du confinement. Et pourtant, tu vois, comme tu l'entends, là, on est en pleine campagne. Mais bon, voilà, je dérogeais pas aux règles. J'ai suivi ce qu'on nous disait. Donc, du coup, je dis pas que je suis pas allé courir, mais quand j'allais courir, je restais dans mon rayon d'un kilomètre. Et voilà, du coup, j'allais faire plus du spécifique à pied. Et en fait, tout mon volume, je l'ai fait à vélo. Et je me suis pris au jeu. Puis après, derrière, je me suis amusé à faire des interviews, tu vois. Alors, c'était pas des podcasts, hein, mais c'était, voilà, je faisais des interviews un peu de personnes que je connaissais pour voir un petit peu leur quotidien. Voilà, c'était divers et varié, tu vois. J'ai interviewé, par exemple, Marine Leleu, qui est très active sur les réseaux sociaux. Tu vois, pour savoir ce qu'elle faisait, parce que pour moi c'est une nénette qui est hyper active, donc c'était pour savoir ce qu'elle faisait, c'était intéressant. Comme aussi bien parler avec la station de Combloux qui est en Savoie, tu vois, pour savoir un petit peu ce qu'ils faisaient de leur côté aussi, tu vois, comment vivaient les stations de ski avec la fermeture précipitée de la station et comment ils voyaient l'été et l'intersaison. Voilà, après j'ai interviewé des sportifs de haut niveau comme Mathieu Péché, Thibaut Pinot, Arnaud Desmarres, tu vois, des gens comme ça. Et c'est vrai que c'était ultra intéressant parce que des mecs comme Thibaut Pinot qui s'entraînent pour peut-être gagner le Tour de France, tu te dis, putain, cette période-là de l'année, comment tu fais, tu vois, même si le Tour a été un petit peu décalé. Mais du coup, je trouvais ça intéressant et puis tout le monde s'est pris au jeu. Alors pareil, je suis dans l'idée d'en refaire, tu vois, peut-être une à deux fois par mois. Mais voilà, donc je vais voir. Mais ouais, j'ai pas mal d'idées, tu vois. J'ai beaucoup d'idées. Je mets du temps à m'endormir le soir parce que j'ai tellement envie de faire des choses que... Mais au final, je fais pas grand-chose derrière. Donc voilà, j'ai envie d'appliquer pas mal de trucs. Donc voilà.
Par contre, c'est une question, mais j'ai l'impression que t'as pas de tapis de course.
J'en avais un, mais je l'ai filé à mon kiné. Mais ouais, du coup, il était à Lyon, mais il prenait une place énorme dans notre chambre. Et c'est vrai que ma compagne, tu vois, elle poussait un petit peu du pied son envie de se débarrasser de ce tapis. Et du coup, mon pote kiné, en fait, tu as fait toute la formation clinique du coureur, Active Patch for You, tu vois, de plein de choses comme ça. Et c'est vrai que, tu vois, pour étudier la foulée, le tapis, c'était vraiment top, et aussi pour la rééducation. Donc je me suis dit qu'il sera bien plus utile chez lui que chez moi, et du coup, voilà, maintenant il est chez lui. Mais sinon, au départ, j'en avais un, ouais.
D'accord. Parce que c'est vrai qu'il y en a qui adorent courir sur tapis, il y en a qui détestent ça. Je sais que j'avais eu, comment elle s'appelle, Cécile Bertin, on avait parlé un petit peu de ce sujet-là, de savoir si elle courait ou pas, et elle, le tapis, c'était pas trop son truc.
Ouais, ça m'étonne pas.
Mais voilà, donc c'était une petite question, parce que c'est vrai que c'est une des grandes questions qui, et puis moi, qui m'a souvent été posée. Moi non plus, j'ai pas de tapis, puis je dis, moi, courir franchement sur un tapis, c'est pas le truc qui m'intéresse le plus, mais c'est vrai que des fois, on se dit que sur des périodes hivernales, ça peut être aussi un outil qui est peut-être très utile quand même.
Ouais, après, c'est pas mal, tu vois. Bon, tu vois que si t'arrives à Lyon, qu'il y a un gros pic de pollution, je pense que c'est plutôt pas mal de courir à l'intérieur de chez soi et encore, mais ouais, après, moi, je trouve plus le home trainer quand même. Je trouve que c'est mieux le home trainer parce que, tu vois, par exemple, tu parlais de la période hivernale. C'est vrai que le vélo, c'est quand même assez dangereux, pas déjà en ville, mais aussi en période hivernale, tu vois, ou automnale, lorsqu'il y a les feuilles qui tombent, il pleut un petit peu et ça glisse énormément. Après, pareil, c'est pas forcément facile de sortir le vélo parce que l'équipement vélo, ça coûte une blinde et c'est vrai qu'il n'y a pas... Faut s'acheter des surchaussures, la veste, les gants, des gants spéciaux, le tour de cou, le bonnet, etc. Enfin, ça coûte vite une blinde parce qu'il faut tout que ce soit Windstopper, voire en Gore-Tex, tu vois. Donc, ça coûte quasi le prix d'un vélo. Donc, c'est vrai que le home trainer est pas mal. Et je trouve que c'est un petit peu plus ludique, tu vois. Par exemple, là, quand je faisais pas mal de home trainer, ce qu'on faisait, en gros, on utilisait Discord, hein, qui ressemble un petit peu à Skype. Donc, l'application... dedans, voilà, on échangeait en fait avec des potes, on roulait ensemble et en même temps on mettait les oreillettes et on discutait ensemble. Donc, ouais. Tu vois, c'était un petit peu plus ludique, quoi. Parce que bon, de rouler avec ton pote à côté de toi virtuellement, c'est comme si tu roulais avec quelqu'un d'autre, tu vois.
Ouais.
Mais là, donc c'est pas mal, on pouvait échanger, etc. Puis après, voilà, il y avait pas mal de courses, donc c'était assez drôle pendant le confinement. Mais voilà, il fallait s'amuser comme on pouvait. Et ouais, voilà, moi je préconise plus le home trainer, tu vois, parce que du coup tu peux mettre ton vélo dessus, t'es habitué à ton vélo, qu'un tapis de course, quand même, ça change quand même pas mal de choses, tu vois, mais bon, après, tapis de course, c'est vrai que c'est pas mal, hein, parce que maintenant tu peux incliner des tapis de course à 20-25%, c'est vrai que c'est intéressant quand tu veux travailler quelque chose, par exemple, si tu habites en ville et que tu travailles un trail et que tu veux travailler vraiment la montée. Même si c'est pas une montée technique et que t'as pas le travail de pose de pied, c'est vrai que c'est intéressant aussi, quoi.
Ouais. Oui, puis j'ai beaucoup d'auditeurs quand même qui veulent faire du trail et qui habitent en plaine et qui cherchent désespérément de la côte. Et donc des fois, c'est un petit peu leur solution à eux, c'est d'arriver à trouver ce genre d'outils. On a parlé de course, on a parlé de... Tu dépenses beaucoup d'énergie. Comment t'alimentes la machine? C'est-à-dire, comment tu t'alimentes? Est-ce que t'as... J'ai lu, hein, que t'avais travaillé sur l'alimentation aussi pour... être progressé aussi là-dessus.
Ouais, ben en fait, là, tu vois, je disais que j'avais changé un petit peu de façon de m'entraîner et j'ai aussi changé certaines choses en fait dans ma manière de m'alimenter. Alors là, pendant l'été, je peux te dire que j'ai mis un peu une petite croix dessus, mais bon, je vais l'effacer là parce que je vais remettre des dossards. Mais tu vois, d'ailleurs, ce soir, je sais pas comment va se passer la soirée, mais je suis invité chez un pote vigneron, tu vois.
Ouais.
Donc, non, après, ouais, j'essaye de faire le job. J'ai changé quand même pas mal de choses. Tu vois, on est changé en off sur le café, tu sais, où toi, ça te faisait des petites gênes. Bah, moi, c'est pareil. En fait, il y a certaines choses où j'ai fait un petit peu plus attention et je me rends compte que ça a changé, bah voilà, beaucoup de choses en course, tu vois. Ça m'est arrivé des fois d'arrêter une course parce que j'avais mal au ventre, et donc déjà j'ai arrêté totalement les laitages. Alors d'une, d'un côté gastrique, mais aussi pour un côté inflammatoire, même si j'avais pas de douleur inflammatoire, mais c'était important et je me sentais mieux, tu vois. Donc déjà j'ai banni tout ce qui est lait, laitage. Après, je continue à manger parfois du fromage, tu vois. Mais voilà, déjà, j'ai diminué ça. Et tu vois, par exemple, si un jour, je prends une pizza 4 fromages base blanche, t'inquiète que le lendemain et les jours qui suivent, je le paye direct, quoi. Donc voilà, après, Après, j'ai changé aussi. Je mange énormément de légumes et de fruits. En plus, on est quand même en ce moment, on est bien loti, tu vois, en ce moment. Donc, tu vois, je mange beaucoup de fruits et beaucoup moins de féculents. C'est-à-dire que maintenant, des féculents, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas, il n'y a pas besoin d'en manger beaucoup, en fait. C'est pas, faut pas surcharger. Au contraire, ça peut faire l'inverse, tu vois, de trop manger de féculents, ça rend lourd. Et le problème, c'est que, voilà, il faut habituer son corps, en fait, à en consommer moins, contrairement à ce que tout le monde disait où il faut manger des pâtes tout le temps. Moi, je vais prendre des féculents uniquement le soir. Et maintenant, je vais essayer de diminuer en plus les quantités. Et déjà, d'une, je me sens plus léger. Je perds pas forcément du poids. Et non, du coup, je suis vraiment, vraiment plus à l'aise quand je pars courir. Je suis plus léger, ouais. En fait, il faut vraiment, voilà, favoriser les légumes crus, cuits, puis se faire plaisir, quoi. Alors, réapprendre à cuisiner, en fait, et à apprendre les aliments. Et c'est vrai que c'est ultra intéressant. Après, voilà, je mange beaucoup... Je varie les huiles, l'huile d'olive. Tu sais, bah, je viens du sud, donc du coup, l'huile d'olive, pour moi, c'est l'un de mes préférés. Enfin, c'est l'aliment préféré lorsque je mange. Ça peut être des pâtes, des légumes. J'aime tremper le pain dedans. Enfin, tu vois, voilà. Après, j'ai diminué le gluten aussi. Donc, alors, je mange toujours du pain, tu vois, mais après, je prends un pain de qualité chez le boulanger. Voilà, je prends déjà des aliments de qualité. La plupart sont des produits bio. Je regarde d'où ça vient. On essaye de manger de saison aussi, tu vois. Voilà, on est quand même sur une démarche assez responsable. Enfin, comme je te disais, moi, je me satisfais de peu. J'essaye d'être un côté assez responsable, un petit peu comme j'essaye de faire avec ma marque de vêtements, tu vois, en essayant de mettre des produits bio, en essayant d'insister sur la fabrication française ou voilà, faire marcher des boîtes françaises aussi. Enfin, voilà. Je pense que c'est bien de s'entraider en plus en ce moment. Et pareil, bah, pour les fruits et légumes, écoute, voilà, on va au marché des producteurs, on fait marcher les gens, voilà, qui sont à quelques pas de chez nous, au lieu d'aller acheter en grande surface et faire marcher voilà, des grosses multinationales et en achetant des fruits et légumes, tu vois, où il y a des milliers de kilomètres qui ont été engloutis pour pouvoir manger une pauvre orange, tu vois. Donc du coup, voilà, je préfère m'alimenter comme ça. Et puis après, voilà, j'ai testé une démarche en début d'année qui avait bien marché, c'était l'entraînement cétogène. Alors, c'est pas du tout une alimentation cétogène, hein. C'est en gros, en fait, tu vas t'alimenter en fonction de tes entraînements. Donc voilà, histoire de travailler en fait plus sur les graisses que sur les sucres. Et en fait, tu te rends compte que en fait, un régime lipidique, on va dire, enfin, tout ce qui est graisse, c'est vraiment la base en fait de l'ultra-endurance. D'ailleurs, c'est les muscles qu'on fait le plus marcher, tu vois, tout ce qui est la chaîne postérieure, comme les ischios, les mollets. En fait, ces muscles-là s'alimentent plus en cétogène qu'en glucides, si tu veux. Donc du coup, voilà, bon, je me suis plus entraîné là-dessus, donc. J'ai perdu un tout petit peu de poids, mais après qui s'est rapidement stabilisé. Et c'est vrai que c'était très intéressant en fait, dans tout ce qui est endurance. Et ouais, j'ai trouvé ça intéressant. Puis tu vois, j'étais pas plein, si tu veux, comme on l'est parfois, tu vois. Et là, ouais, c'est vraiment intéressant avec une forme, vraiment une super forme. Et du coup, ce qui est le plus intéressant encore, c'est en gros l'alimentation en course. En fait, t'as pas besoin d'énormément t'alimenter, tu vois. Enfin, sur moi, tu vois, quand j'ai fait voilà, les 80 bornes de l'Ecotrail d'Alula en Arabie Saoudite en février, pour te donner un exemple, au bout du 60-65e kilomètre, j'avais mangé qu'une barre, tu vois. J'avais mangé qu'une seule barre. Enfin, peut-être deux, tu vois, enfin, je sais plus, peut-être deux barres. Et en fait, j'avais mixé entre boisson d'effort et eau tout court. D'accord. En fait, tu te rends compte que ton corps humain, en fait, il est capable de s'adapter. En plus, tu as une vitesse grand V, quoi, tu vois, à une méthode comme celle-ci. Et c'est vraiment intéressant. Et puis, contrairement au régime cétogène, c'est que tu vois, c'est pas contraignant, si tu veux, contrairement à ce qu'on peut penser. C'est-à-dire que, tu vois, si tu dois pas manger, en fait, c'est pas manger de féculents, quoi. Ouais. Et pas manger de sucre. Et ça, c'est très simple, que tu manges au restaurant ou pas au restaurant. Donc, en gros, tu vois, quand je faisais un bi quotidien, pour te donner un exemple, le but, c'était le matin, j'allais faire une séance. Donc, je prenais un petit déjeuner quand même normal avec un petit peu de pain. Donc, il y avait quand même un petit peu de féculents. Je faisais ma séance. Donc, en faisant une séance très qualitative, bah, tu vas vachement puiser dans les glucides. Mais par contre, derrière, du coup, je n'allais pas intégrer en fait, du sucre en fait, à ma récupération. Par contre, j'allais beaucoup, beaucoup m'hydrater. J'allais manger plus des amandes, des noix, des trucs comme ça. Et au repas du midi, bah, j'allais plus manger une salade, tu vois. Au pire, je demandais une salade César sans les croûtons, tu vois. Et au final, voilà, c'était pas trop contraignant. Et puis après, le soir, tu vois, j'allais faire un petit footing de 40-50 minutes à basse intensité. Donc là où j'allais vraiment chercher, en fait, dans les sucres que j'avais plus. Donc j'allais vachement faire un travail sur le foie. Et par contre, derrière, ben voilà, j'allais faire une restitution en glucides. Et du coup, ben, ça habitue ton corps à faire ça. Et c'est vrai qu'après, il est beaucoup plus performant, tu vois, sur le phénomène de fringale ou d'hypoglycémie. Et c'est vrai que ouais, tu as très peu de sucre, tu n'as plus besoin tu vois, d'un moteur, on va dire, qui consomme du 15 litres au 100, tu vois, on va dire 16S. Ben là, tu passes à un véhicule, tu vois, un véhicule diesel, tu vois, qui consomme un petit peu moins, quoi.
Ouais, et je pense même d'ailleurs que quand tu prends du sucre en course, par exemple, d'un coup, tu sens vraiment un vrai coup de boost, en fait.
Ouais, mais en fait, ce coup de boost, je pense que déjà, d'une, c'est dans la tête.
Ouais.
Et après, ce coup de boost, il dure pas longtemps, tu vois. Il dure pas longtemps, et par contre, le problème, c'est que, tu vois, le gros problème qu'il y a, c'est les gels. Alors, après, tu as des gels très qualitatifs, tu vois. Moi, je prenais des gels au miel à un moment. C'est vrai que l'indice glycémique est un petit peu plus bas que dans d'autres marques, mais ça a quand même du sucre, tu vois. Mmh. Donc, tu as un apport en sucre, un pic d'insuline qui est d'un coup. Alors forcément, ça fait un bienfait, tu as des petits trucs qui se passent, des connexions qui se passent dans ton cerveau, qui disent « Ah, bah, ça va aller mieux », mais au final, ça ne dure pas très longtemps. Donc, ce n'est pas tellement très progressif que ça. En fait, ce qu'il faut, c'est quand tu pars, et quand tu arrives dans ta course, il faut vraiment lisser son alimentation. Donc, en gros, quand tu prends de la boisson d'effort, c'est pas mal parce que du coup, tu bois par petites gorgées, pas quand tu as soif. Donc, moi, par exemple, je vais prendre une grosse gorgée, tu vois, je vais remplir ma bouche d'eau toutes les 8 à 10 minutes, tu vois.
Ouais.
En fait, ça me fait boire, suivant la température, ça me fait boire 500 à 750, voire 800 par heure, tu vois, millilitres. Et du coup, en fait, c'est progressif. Tu vois, tu alimentes petit à petit. Forcément, tu consommes, donc tu alimentes petit à petit, quoi. Après, quand tu mets du gel d'un coup, bah, tu vois, ça fait c'est des dents de scie, tu vois. Donc, ça monte, ça descend. Et du coup, tu joues là-dessus. C'est vrai que moi, j'ai commencé comme ça. Et pour le bide, bah, tu vois, par exemple, c'est pas très bon, tu vois. Parce que quand tu cours, tu digères pas, tu digères très peu. Donc, tu vois, si tu commences à bouffer plein de trucs, alors, dans l'ultra, des fois, c'est pas mal parce que t'as besoin d'un élément de satiété, tu vois. Mais, et voilà. Donc, après, moi, ce que je conseille plus, c'est si t'aimes bien ce gel-là, le goût qu'il a, au pire, tu l'ouvres, tu le mets dans ta gourde, tu vois, mélangé avec de l'eau et tu le bois progressivement, quoi. Après, c'est bien d'avoir un gel de côté pour te dire si tu te prends vraiment un coup de bambou, bah, c'est intéressant de l'avoir, tu vois, de prendre un demi-gel. Tu vois, dès que t'es vraiment pas bien, et après tu reprends ton autre gel, tu vois, peut-être 20 minutes, une demi-heure plus tard, quoi, pour remettre un petit coup et pas retomber. Mais ouais, le mieux c'est vraiment de glisser et puis plus manger des barres, tu vois, parce que du coup il y a la mastication, il y a la salive qui rentre en jeu, ça te permet de un petit peu mieux digérer, ça te remplit un petit peu le ventre, tu vois, que de boire que de l'eau, quoi. Toi, ce qui est intéressant, c'est quand tu fais une sortie de 2 heures à 3 heures, comme j'ai fait ce matin dans le Ventoux, bah, ce qui est intéressant, c'est que t'es pas obligé de t'alimenter sur une sortie comme ça quand tu commences à avoir l'habitude, tu vois. Et c'est vrai que c'est super bien. Alors après, il faut pas oublier, il faut bien s'hydrater aussi à côté. Donc moi, je prends ma flasque qui est remplie d'eau, tu vois. Je monte le Ventoux, je bois progressivement, petit à petit, j'arrive en haut, je la remplis en haut, je redescends, je bois, tu vois, j'ai bu 1,5 litre sur 3 heures, c'est bien, mais je me suis pas alimenté. Et par contre, quand j'arrive à mon camion pour repartir. Bah, écoute, j'ai de la fatigue musculaire, mais la fatigue générale, elle est bien, quoi. Tu vois, je suis pas en hypo. Quoi.
Ouais, mais c'est super intéressant comme approche. Hein. C'est vrai, moi j'avais lu des livres, hein, sur l'ultra endurance, l'alimentation de l'ultra endurance, où il parle un petit peu de tout ça. Pour la récup, d'ailleurs, tiens, c'est un sujet qui est intéressant. Sur finalement, qu'est-ce qui favorise la récup selon toi après ce type d'effort? C'est l'alimentation? C'est tu prends des compléments?
Ouais, bah alors moi je suis vraiment sur le truc assez naturel, tu vois. Donc du coup, chose à faire, c'est s'hydrater à fond, tu vois. Mmh. Pour moi, t'as fait une bonne récupération dès que tu commences à pisser clair, tu vois. Donc dès que tu pisses clair, c'est que tu t'es bien déjà réhydraté.
Ouais.
Après, moi je suis plus là, ouais, faire plus une dose de protéines, tu vois. Dès que t'as fait une sortie longue ou une sortie où t'as fait pas mal de casse de fibres, tu vois. De fibres musculaires comme un travail de vitesse, un travail en côte. Après, quand t'as fait une sortie d'une heure, t'es pas obligé de faire tout un protocole alimentaire. Après, s'hydrater, c'est important toute la journée. Là, voilà, la réhydratation. Derrière, un apport en protéines. Tu peux prendre, par exemple, moi, j'ai une marque de protéines là, de quelqu'un qui est juste dans la région, qui est juste d'un petit village à côté du mien, qui s'appelle Duan Perf. Qui propose de la spiruline, tu vois, et du coup, je prends de la spiruline en micro-granules, tu vois, c'est très qualitatif, il y a un apport en protéines, après, tu as plein de micro-éléments supplémentaires, donc là, c'est intéressant. Je prends pas de sucre tout de suite après. En fait, il vaut mieux attendre une heure et demie derrière, tu vois, tu sais, quand tu as un inversement métabolique, si tu veux, et c'est vrai que c'est très intéressant de manger plus de féculents, on va dire, ou du sucre, tu vois, une heure et demie après, tu vois, après ta sortie. Donc, ce qui est pas mal, voilà, tu prends une dose, par exemple, de spiruline dès que t'as fini. Après, derrière, ben, tu peux manger une banane, tu vois, après ta sortie, histoire de donner un petit coup de sucre, quoi, tu vois, plus progressif. Et puis après, une heure et demie après, ben, faut pas hésiter à remanger deux bananes, tu vois.
Ouais.
Et du coup, c'est là où tu fais une très bonne régénération. Et ça, c'est ultra intéressant. Pas besoin de faire plus, pas besoin, voilà. Tu vois, c'est très simple, hein, la récupération. Après, ouais, si tu vas aller pousser plus loin, hors alimentation, il y a le massage, il y a les étirements, le stretching, la respiration. Tu vois, après une sortie, c'est pas mal de faire un petit peu de cohérence cardiaque. Ça permet de se détendre. Pendant cette cohérence cardiaque, tu penses à ta sortie, voilà, en disant, voilà, t'as fait du bien à ton corps, etc. Bon, alors, je dis ça, mais je le fais jamais parce que je prends pas le temps. mais c'est bien de le faire, voilà.
Ouais. Non mais c'est marrant parce que c'est vrai que ces outils-là, moi j'en parle très régulièrement dans le podcast, etc. C'est bien de voir comment toi tu les appliques, comment tu les utilises, parce que c'est vrai que ça donne plein de pistes, hein, de voir un petit peu comment tu gères ça toi avec ton volume d'entraînement qui est beaucoup plus élevé que nous. Tiens, il y avait une question quand même. Moi j'ai ma philosophie à moi, ça s'appelle SAM, c'est alimentation. Le A c'est alimentation, le M c'est mouvement, donc on en a parlé, mais le S c'est sommeil et repos. Est-ce que toi, tu as une philosophie, enfin, est-ce que tu dors particulièrement? Est-ce que tu fais attention à ton volume de sommeil? Est-ce que tu fais la sieste ou
Alors, en ce moment, je fais plus trop la sieste parce que je suis très pris par les entraînements et le travail. Mais c'est très bien d'en parler parce que pour moi, la meilleure source de récupération de toutes, que ce soit alimentation, hydratation, de tout ce qu'on vient de parler, c'est le sommeil. Le sommeil, c'est le numéro un. Tu vois, c'est vraiment là où le corps travaille énormément. Donc, si tu l'alimentes bien, bah, du coup, il va encore mieux fonctionner pendant ton sommeil. Le sommeil, c'est ce qui régénère le mieux. Malheureusement, moi, en ce moment, je sais pas, je pense à tellement de choses en même temps, je dors très très mal. Du coup, je me réveille, le moindre bruit, je l'entends. En plus, c'est bien, on vient d'acheter des poules, donc tu vois, c'est génial. non, dès qu'il y a le moindre bruit, ouais, moi ça me réveille. J'ai une montre connectée que tu peux mettre, tu vois, pour le sommeil, ça analyse ton sommeil. Puis tu sais, c'est WeSings qui fait ça, et donc tu as vraiment. Il y a une validation santé, tu vois, c'est vraiment un produit vraiment haut de gamme. Et ma compagne en a une, pour te donner, c'est un indice sur 100, je crois. Elle est à 92, 96, donc tu vois,
wow, très bonne note. Ouais.
Ouais, moi, je suis à 32, tu vois.
Et, oui.
Et j'ai une grosse pastille rouge, tu vois, dès que je la mets pour dormir, en disant que je dors très mal, tu vois, j'ai pas de sommeil profond. Alors après, bon, je regarde beaucoup mon téléphone avant d'aller me coucher. Alors pas dans mon lit, tu vois, j'essaye de blacklister ça, mais ouais, après, tu sais, je pense à tellement de choses que voilà, j'ai un sommeil qui est assez perturbé. Mais par contre, tu vois, la première chose, c'est que quand j'ai bien dormi une nuit, tu vois, assez longtemps et que j'ai une séance le matin même, je le vois direct, quoi. Et c'est vrai que le sommeil, c'est la base de tout, hein.
Ouais, alors j'ai moi aussi montre WeThings, hein, je regarde mon score de sommeil, ça fait des années que j'ai montre WeThings, et je regarde, et j'étais à 66 la nuit dernière, donc ça explique que ce matin j'avais de l'énergie. C'est vrai que moi je le regarde pas parce que maintenant on le ressent, on est capable de le ressentir plus ou moins bien, etc. Mais c'est vrai que c'est un élément qui est fondamental, qui est vraiment très important. Et c'est vrai que moi la montre, c'est vrai qu'elle m'avait vraiment aidé à surveiller un petit peu ces plages-là, et je notais comment je me sentais le lendemain par rapport à mon sommeil. Et maintenant, bon, je le sais, je regarde quasiment plus, même quand elle synchronise pas, je me rends même plus compte. Mais c'est vrai que ça fait partie des indicateurs qui sont intéressants. Et c'est vrai que le sommeil.
Ouais, c'est génial. Après, bon, je fais pas de la pub pour la marque, mais tu vois, du coup, moi, j'ai pas mal de trucs connectés, de WeThings, et j'ai une balance, par exemple, et j'ai un capteur, tu sais, pour prendre ta tension, quoi, un tensiomètre. Ouais. Et du coup, c'est ultra intéressant. Alors, ce qui est super drôle, c'est que du coup, bon, t'es noté, tu vois, mais après, il faut prendre du recul, hein. Bien, pas très bien. Enfin, moi, je vois mon sommeil mauvais, tu vois, bon, je le prends pas mal, quoi. Mais, tu vois, pour, par exemple, le poids, ça me permet de voir un petit peu quand je me sens un peu fatigué, pour voir si j'ai pas un peu trop maigri, ou inversement, quand je me sens pas bien sur la séance, pour voir au poids où j'en suis. Après, je suis pas là, tu vois, à prendre un chiffre ou quoi que ce soit. Donc, c'est intéressant parce que du coup, ça prend une moulinette et ça mélange toutes ces informations. Par contre, à l'inverse, tu vois, sur le cardio fréquence mètre, je mets mon truc, je suis optimal, quoi. Tu vois, j'ai la pastille vert fluo parce que j'ai une tension de malade, un pouls, tu vois, très bas. Moi, je suis à entre 32 et 35 en pouls, tu vois. Donc, du coup, mais après, tu vois, j'ai sur ma tension, j'ai une très bonne tension. Et c'est vrai que cette marque-là, comme tu le dis, moi, ça m'aide beaucoup, tu vois, dans mon quotidien, en me disant « Ah bah ça, c'est bien, tu vois. » Et voilà, donc le sommeil, voilà, c'est le truc que je dois travailler en plus des descentes, tu vois.
Bah oui, ça fait partie des axes de progrès, on a tous nos axes de progrès.
Ah, mais c'est ça, hein.
C'est rassurant parce que quand on voit un petit peu, quand nous on débute, moi je cours pas depuis très longtemps, et quand on débute comme ça, on se dit voilà, ouais, on a tellement de trucs à apprendre, etc. Puis on se rend compte que en fait, même vous qui les, je parle des champions, des athlètes, vous avez encore tellement, vous aussi vous avez toujours des trucs à apprendre, donc on se dit que c'est normal.
Ah, de toute façon, peu importe, on a tous les jours on a des choses à apprendre. Hein. Enfin, faut se dire, il y a toujours meilleur que soi déjà, et puis ouais, tous les jours t'as des choses à apprendre. On connaît rien en fait, hein. Donc du coup. Je suis quelqu'un d'assez curieux et c'est vrai que j'adore apprendre des choses et puis j'adore les transmettre. Donc voilà.
Et on le sent bien parce que c'est vrai que sur Instagram, c'est vraiment sympa de suivre un petit peu, de voir un petit peu. Et puis, j'ai remarqué, et ça m'amène sur la dernière partie là où je voulais parler un petit peu par rapport aux sponsors, des partenariats. L'autre jour, j'ai vu des photos, mais on aurait dit tu devenais mannequin, tu faisais des photos de mode.
Ou ça t'a plu ou pas?
Oui, alors j'ai trouvé ça, mais alors, en plus je trouve que la photo était vraiment super sympa, celle que j'ai vue sur, enfin j'en ai vu une en tout cas sur Insta, je suis en train de regarder le compte en même temps si j'en
veux. Ouais. Mais du coup je pouvais pas en mettre d'autres parce que du coup c'est un shooting pour des lunettes qui vont sortir en 2021, donc du coup tu vois je devais pas dévoiler les nouveaux modèles, mais du coup je me suis vachement joué le jeu, tu vois, d'être assez bien habillé, et je trouvais ça plutôt cool. Alors je me suis dit je vais la poster sur Instagram, on va voir ce que ça donne, parce que tu vois des fois c'est un peu une communauté qui est assez fermée, tu vois, et en fait je me suis rendu compte que les retours étaient assez positifs, donc j'étais content.
Et non, puis ça change vraiment. C'est vrai que ça change vraiment le l'aspect, parce qu'on d'habitude on te voit toujours en train de courir, en train de faire du vélo. Là, d'un coup, on a une autre image qui était vraiment sympa. Et je crois même qu'il y en a qui t'ont dit mais tu deviens mannequin ou tu pourrais faire mannequin, etc. Et là où j'en viens, c'est en fait t'as un look qui passe pas inaperçu avec ta grande barbe, etc. Et c'est vrai que t'as une image où on te reconnaît tout de suite, en fait. On peut pas te rater. Est-ce que c'est quelque chose qui t'est naturel à toi, je veux dire, ou est-ce que finalement tu travailles, ou parce que sur la barbe tu parlais tu l'avais rasé à un moment donné, que c'était, ça fait partie des choses que tu travailles, ou finalement tu t'en moques un petit peu de tout ça?
En fait, non, tu vois, Le départ de la barbe, pour expliquer cette histoire de barbe, c'est tout simple. En fait, quand je suis arrivé sur Lyon, j'ai commencé à travailler sur les marchés et j'ai adoré ça, tu vois, travailler sur les marchés. J'avais une amplitude horaire c'était fatigant, mais c'était cool. J'avais une amplitude horaire pour pouvoir m'entraîner et faire plein de choses à côté. Et après, derrière, il y a un magasin de course à pied qui s'appelle Spod, qui m'a proposé de travailler pour eux et de rentrer dans leur équipe, si tu veux, au magasin. Donc pour moi, ça m'a plu, tu vois, de tout gérer d'un seul truc. Je faisais des petits extras, tu vois, à côté, dans les champs ou sur les marchés. Donc pour moi, c'était cool. Et derrière ça, en fait, on n'avait pas le droit... On n'est pas le droit à la barbe de plus de 2 jours, tu vois. Et c'était horrible pour moi parce que j'ai une peau assez sensible, tu vois. Et du coup, des fois, on me faisait la remarque parce que je ne m'étais pas rasé, tu vois, le lendemain, tu vois. Et pour moi, si je faisais ça, ça commençait à me faire des plaques et tout. Mais c'était vraiment horrible. Et tu vois, je ne voulais pas une beubarde comme j'ai maintenant, mais je voulais, voilà, peut-être une barbe que j'aurais entretenue, tu vois, que j'aurais fait un truc propre comme tout le monde a, tu vois, la plupart du temps. Tu vois, un truc, voilà, tu te rases tous les 3 jours et c'était plus simple, quoi. Mais là, c'était vraiment interdit et c'était très, très dur pour moi. Et derrière, on m'a débauché dans un magasin peu à côté. Et tu vois, c'était un magasin, en fait, dans le outdoor. Donc, c'était un peu plus varié. Donc, je parlais pas que de course à pied tous les jours, tu vois. Donc, c'était pas mal. On faisait ski, randonnée. Donc, c'était pas mal. Et là-bas... tu vois, le patron avait une barbe d'une semaine, tu vois, on pouvait faire ce qu'on voulait. Et du coup, pour moi, c'était une libération, tu vois, de faire pousser cette barbe, quoi. Et de là, en fait, j'ai bien aimé parce que, du coup, en courant, tu vois, j'ai des creux, tu vois, j'ai les joues toutes creuses. Ma mère, elle me disait, oh là là, t'as encore maigri. Enfin, tu vois, j'avais toujours des remarques comme ça quand j'étais rasé vraiment de près, quoi. Je me suis dit, c'est bon, je me mets la barbe, ça me donne plus de joues, tu vois. Et puis au moins, voilà, c'est plus un entretien quotidien à la peigner et à la huiler, mais au moins, tu vois, j'ai plus à avoir un entretien de malade, tu vois, à me faire mal, à m'irriter la peau. Donc du coup, en fait, c'est juste un point de vue pratique au départ. Après, je me suis rasé, en fait, la barbe au mois de novembre dernier pour un pote, Olivier, qui travaille au Vieux Campeur à Paris. Et en fait, je l'ai fait pour lui parce qu'Olivier a eu un cancer des testicules il y a 2 ans, je crois, maintenant. Et en fait, il avait fait une campagne l'année dernière qui avait assez bien marché. Et puis là, il m'a demandé, écoute, ouais, ça te dit pas de nous aider? Je lui ai dit, bah, écoute, moi, je veux bien t'aider. Si on atteint tel montant, eh ben, je me fais la moustache, tu vois. Alors, il ne me croyait pas, tu vois. Et du coup, je lui ai dit, bah, attends, on va mettre ça sur les réseaux sociaux. Et en fait, la somme qu'on a annoncée, on l'a atteinte en 48 heures. Alors que lui, tu vois, il avait atteint un truc un peu moins l'année dernière, mais sur toute la campagne. Et tu vois, il me dit, ah, c'est génial, tu vois. Je dis, bah, écoute, déjà, c'est toi l'exemple, tu vois. Et c'est surtout que c'est que les réseaux sociaux, tu vois, ça sert à ça. Et c'est bien de communiquer, de se mettre en avant, de se prendre en photo. Mais tu vois, là, c'était vraiment un truc pratique. C'était pour une cause, c'était pour un pote, c'était pour d'autres gens, c'était, voilà. Et non, c'est pas une question de style. Enfin, tu vois, ça me fait plaisir de faire attention, d'avoir fait cette photo de mode comme je l'ai fait la semaine dernière et tout. Et au final, mon style, je le fais en fonction de ma vie. Tu vois, je me suis rasé la barbe pour avoir la moustache pour Movember. Alors ouais, c'est une campagne, tu vois, qui est mise en avant, etc. C'est ultra social et tout, mais tu vois, c'était pas pour ça. Parce qu'en plus. Pour être sincère, je me suis détesté quand j'avais la moustache et tout. Mais au final, derrière, je me suis dit, bon, c'est que de la barbe, ça repousse, tu vois. Et au final, voilà, on a fait quelque chose de très bien. Et ce qui est bien, c'est que les gens derrière ont vu que bah, j'avais joué le jeu, parce que je me suis rasé la barbe peu de temps après qu'on ait atteint la cagnotte. Et les gens ont continué à mettre dedans. Donc tu dis, bah voilà, c'est tout gagné, tu vois. Et c'est là où les réseaux sociaux sont géants, quoi. Après, voilà, c'est marrant de s'être bien habillé et d'avoir joué le jeu comme ça. Et puis, bah, peut-être que je vais peut-être changer un petit peu mon orientation de certains postes. Mais voilà, surtout, voilà, mon but, c'est toujours de prendre les choses avec du recul, de rigoler, comme la vidéo que j'ai mis hier, tu vois.
Ah oui.
Je trouvais ça super marrant, tu vois, où je refaisais le mec, la question, elle est vite répondue. Alors, j'ai essayé de faire... un plagiat du truc, tu vois, ben voilà, enfin, il faut rigoler, quoi, tu vois. On sort d'une période qui a été tellement compliquée. J'espère qu'on va pas rentrer dans la même dans quelques mois. Donc voilà, faut prendre du recul, s'amuser, kiffer. Voilà, comme je te le disais, il y a plusieurs dizaines de minutes, la course à pied c'est éphémère, les réseaux sociaux aussi, tu vois. Donc faut rester vrai. Moi je reste vrai sur les réseaux. J'essaye de partager comme il faut. Si je peux aider les gens, je le fais, tu vois, comme faire la promotion de certaines courses caritatives pendant le confinement. Enfin, c'est quoi de plus, tu vois? Certes, je peux pas répondre à tout le monde, à venir à, rejoindre à toutes les assos, mais des fois, bah, quand je peux, je le fais, quoi, tu vois. Et puis voilà, quoi.
Ouais, et j'ai vu un truc que tu avais fait qui était vraiment très, très sympa et très marrant aussi. C'était les lives que tu faisais avec les petits partenaires ou les petits commerces, ou les. J'avais vu avec un vigneron, des gens comme ça, là. Notamment.
Bah, d'ailleurs, c'est chez lui où je vais boire l'apéro ce soir et manger. Donc, tu vois, quand si tu as vu le phénomène, tu imagines comment va se passer la soirée de ce soir. Mais derrière, ouais, c'était vraiment important. Bah, tu vois, j'ai certaines valeurs. Tu vois, bah, par exemple, voilà, mon pote vigneron, c'est un mec qui est du village d'où je suis. Donc, il met en avant la Provence. Tu vois, il est amoureux de son pays, donc comme moi. Après, bah, derrière, tu vois, c'est quelqu'un qui fait du vin bio, qui travaille sur la biodynamie, qui veut travailler sur le vin nature. C'est quelqu'un qui aime son terroir et pour moi, c'est important de les mettre en valeur, tu vois. J'aime que les gens utilisent, on va dire, la petite renommée que j'ai, tu vois, sur les réseaux sociaux, qu'ils l'utilisent, tu vois, à bon escient, tu vois. Je trouve ça génial. J'ai eu WeThings, par exemple, qui est une plus grosse boîte. C'était important pour moi parce que ça peut apporter aux autres gens. Tu vois, le but, c'était ça, la démarche. C'est, en gros, si je fais un truc, c'est que ça apporte pour d'autres personnes. J'ai interviewé, je sais pas, par exemple, une petite boîte. Ça va être, on connaît tous les cafés vélos. Là, ça va être un café vélo, mais plus axé sur la bière, tu vois, au pied des monts du Lyonnais. Ça s'appelle Virage 7. C'est deux mecs qui allaient se lancer là, tu vois. Ils allaient se lancer là, mais tu vois, il y a le confinement qui est tombé et tout. T'imagines, c'est difficile pour eux, pour mettre en avant, pour avoir de la crédibilité envers les banques avec tout ce qui s'est passé. Donc, du coup, je me suis dit, bah, vas-y, on va les mettre en avant. Et puis, ça me prend quoi? Une heure de mon temps. Et en plus, ça m'occupe, on va dire, parce que je suis sur mon entraîneur en train de pédaler. Bah, voilà, je suis en basse intensité, je vais parler avec une personne. Moi, je me suis fait du bien, j'ai pédalé et en même temps, je me suis fait du bien parce que j'ai parlé de la personne et je l'ai aidé un petit peu. Et elle ressort de ce live. Alors, peut-être qu'elle ne va pas toucher des millions de personnes, mais peut-être une ou deux personnes qui après vont en parler derrière et peut-être que ça va construire quelque chose. Donc voilà, pour moi, c'est constructif et c'est vraiment intéressant. Et même, j'ai découvert certaines personnes autrement, tu vois, et c'était vraiment top, quoi.
Ouais, et je trouve que c'est vachement sympa et c'était bien de finir aussi là-dessus, de montrer hein, finalement, on disait ta personnalité, on la connaît pas tant que ça parce qu'on voit qu'un aspect, hein, c'est vrai que il y aurait plein de choses encore dont on pourrait discuter, mais on va bientôt arrêter maintenant ce podcast. Mais moi, je resterai des heures comme ça parce que c'est vrai que c'est passionnant de découvrir un petit peu cet envers du décor. C'est vrai qu'on le voit pas, hein, on le voit pas. J'avais juste une dernière question avant de finir. On a vu plein de tes camarades de trail se lancer dans des défis, des traversées, des records, du GR20, du GR10, des Chamonix, Briançon et tout. Et toi, finalement, tu t'es pas lancé dans ce genre de défi. Alors pourquoi ça tente pas? Si tu as un autre truc.
Si, ça me tente, mais moi je trouve que c'est trop le truc à la mode, tu vois. C'est toujours plus, tu vois. Là, on est toujours dans le truc faire toujours plus, toujours plus. Moi, je déteste rentrer là-dessus. Je suis pas contre-courant, hein, mais tu vois, moi, j'espère juste une chose, c'est que c'est battre ce GR, faire ci, faire ça, se montrer en avant, tu vois. Au contraire, j'ai trouvé plus le truc Salomon beaucoup plus intéressant parce qu'ils étaient pas là à battre un truc, mais à partager quelque chose avec les gens et au sein même du groupe en faisant un truc de dingue. J'ai trouvé ça génial que du mec. On va faire ça, tu vois. Moi, ce qui m'énervait, c'est qu'à la fin, l'article, par exemple, sur Trail Endurance Mag, machin, pulvérise le record d'un tel. Enfin, déjà, pulvériser, tu vois, quand t'entends le mec, c'était plus une quête spirituelle, et là, on parle de pulvériser un record. Ça, je trouvais ça totalement con, tu vois. Et après, derrière, enfin, Intel bat le record de François Denne. François Denne, tu sais, s'est fait battre tous ses records, à part le GR20, mais il s'est fait battre tous ses records cet été, tu vois. Mais au final, c'était des sorties longues qu'il avait fait, tu vois. Chamonix-Briançon, c'était une sortie longue qu'il avait fait avec, avec Viricel et Michel Lannes, tu vois. Ils ont fait une sortie longue appuyée, je suis d'accord. Comme ça traversait des Bauges, tu vois, il a fait une sortie longue pour préparer quelque chose d'autre, tu vois. C'était pas pour marquer son nom sur le papier. Et ça, c'était un vrai truc, tu vois. Et ça, c'est à respecter parce que le mec, il a fait ça pendant sa compétition pour partager avec les gens et sans se mettre en avant, tu vois. Et je trouvais que là, maintenant, ces trucs, je bats ci, je bats ça. Enfin, tu vois, les mecs, il y a les journalistes et tout, on se croirait sur une course. Au final, tu vois, ça perd de son charme. Je trouvais que ça perdait pas mal de son charme, tu vois, machin, pulvé ici, atomise, machin. Quand tu vois Xavier Thévenard sur le GR20... Ça voulait plus rien dire. La performance, elle est exceptionnelle, tu vois. Jamais j'irai faire un temps là-dessus. Enfin, surtout quand je viens de parler de ma technicité sur les terrains techniques. Enfin, tu vois, j'irai jamais faire ça, tu vois. Mais je trouve, on n'est plus dans cet esprit, tu vois, l'esprit trail. Maintenant, moi, j'en rigole, tu vois, parce que ça veut plus rien dire, tu vois, quand tu vois ça. Moi, j'espère juste une chose, c'est que derrière, les gens aillent dans cette démarche-là, tu vois, de partir en off, faire des trucs comme ça, mais quand toutes les courses auront repris, tu vois. Parce qu'en gros, j'ai fait ça pour patienter, tu vois. Enfin, ouais, enfin, tu vois, fais-le en off et le dis pas, tu vois. Tu vas plutôt dire, bah voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Peut-être tu peux le filmer ou faire des photos pour le partager après derrière, mais là, tout le monde est aux aguets, tu vois. Donc au final, un GR20, je veux bien, tu vois. Parce que c'est quand même le GR connu, que tout le monde essaye de se battre, où tout le monde est allé à essayer de le battre ou pas le battre, tu vois. Mais après, les autres trucs, enfin, ça veut plus rien dire. Je vais plus, tu vois, défendre... tu vois, on a vu la traversée des Pyrénées où Éric Lavry a pulvérisé le record, forcément.
Mmh. Ouais.
Et ben derrière, il y a un mec qui l'a fait en 5 jours de plus, mais il l'a fait en autonomie totale. Et moi, je vais plus donner respect à ce mec-là qu'à Éric Lavry, même si la performance est quand même énorme. Tu vois, il a fait 900 km, il a fait 100 km et 6000 de D+, il a fait genre une CCC par jour pendant 9 jours, c'est quand même énorme, tu vois. Mais enfin, le mec, il y avait un camping-car qui le suivait, enfin, tu vois, c'était une armada de malades, tu vois. Après, le mec, il pose, enfin, moi, je suis là à mettre mes sponsors en avant, mais le mec, il pose derrière un panneau publicitaire où il met toutes ses marques en avant, tu vois, ça perd son charme et je trouve ça dommage. Le mec, là, on n'en parle pratiquement pas. Alors, par contre, Trail Endurance Mag l'a relayé. Je trouve ça super bien. Ils ont relayé le mec qui a fait ça en autonomie totale. Le mec, tu vois, il a fait ça dans l'inconnu. Enfin, ça, c'est super cool, tu vois. Et bah, là, moi, je pars sur les crêtes vosgiennes fin août. Et le but, bah, déjà, c'est de voir un petit peu où est-ce que j'en suis. En plus, il y a un énorme niveau sur cette course. Donc ça va être sympa. Et derrière, bah, c'est pour voir un petit peu, tu vois, faire la traversée des Vosges, peut-être battre le record, mais pas cette année, tu vois, peut-être l'année prochaine, pareil, sur une préparation, un objectif, sur une course longue qui pourrait suivre derrière. Alors, en fait, c'est plus une quête spirituelle, parce que mon nom de famille, en fait, vient des Vosges. Et en fait, j'ai jamais couru là-bas. Et en fait, bon, moi, j'ai eu pas mal de problèmes familiaux étant petit. Et c'est vrai que je connais pas trop, tu vois, la famille de mon père, donc c'est mon nom de famille venant de mon père. Et du coup, je trouve que c'est une belle dédicace. Je l'ai très peu connu. Il est décédé quand j'étais jeune, tu vois, et je l'ai très peu connu parce que mes parents aussi ont divorcé quand j'étais très petit. Et puis bon, voilà, on m'a relaté pas mal de mauvais souvenirs, même si je m'en souviens pas forcément. Et du coup, je trouve que c'est un peu un truc. De faire cette traversée alors que je batte le record ou pas le record, mais tu vois, de remettre les choses à niveau, à zéro, et de dire voilà, je suis revenu, j'ai fait ci, j'ai fait ça, voilà, je fais la traversée des Alpes, c'était une quête spirituelle, en repensant à mon passé, en se faisant plaisir, parce que c'est un endroit, voilà, qui est vraiment beau, et puis voilà, je vais pas le créer sur tous les toits, que tel jour je vais faire ci, tu vois. Voilà, je préfère le faire plus en off, peut-être avec des copains, et puis après, derrière, voilà, peut-être partager, mais d'une manière quand même assez différente que ce qu'on a vu dernièrement. Mais voilà, j'aimerais battre un record ou faire cette traversée quand toutes les courses, si elles reviennent à la normale, tu vois, pour rester vraiment dans quelque chose d'assez naturel, quoi.
Eh ben très bien. Eh ben c'est un chouette projet. Hein, on a bien vu, hein, je pense, un petit peu vraiment tout ton univers qui est génial. Moi, c'est vrai que j'adore te suivre sur les réseaux. Et puis je regarde aussi. Et puis en plus, je suis assez fier parce que l'autre jour, j'ai fait ma sortie avec tes chaussettes. On n'en a pas trop parlé,
des
sponsors, etc. Mais j'ai eu la chaussette de France il y a pas longtemps dans le podcast. On avait discuté de comment vous avez travaillé ensemble sur les chaussettes, etc.
Ouais, je me souviens. Ouais.
Et j'aime bien alors sur une, c'est marqué No Glory, sur l'autre, c'est marqué No Pain. Alors j'ai pas dit dans le bon sens, bien entendu, mais c'est ta philosophie.
Ouais, parce qu'en fait, je voulais pas mettre le no pain, no gain, tu vois, qu'on voit de partout. Mais le no pain, no glory, tu vois, c'est plus dans la base skateboard. Donc au moins, c'est plus dans la mode skateboarding, tu vois. Donc du coup, je me disais, voilà, on va changer un petit peu du running, faire des chaussettes de running, bon, qui peuvent être aussi mises, tu vois, pour la rando, mais aussi pour le vélo. Mais voilà, de passer pas sur le no pain, no gain. Et puis, tu vois, la gloire, elle t'appartient à toi. Donc, tu peux avoir ta propre gloire pour n'importe quelle chose que tu vas entreprendre, que ce soit un 5 km ou un ultra, tu vois. Donc, je trouvais que la phrase était plutôt pas mal, que le no pain, no gain, tu vois, c'est à bloc, tu vois. Enfin, tu vois, voilà, je trouve que c'est un peu plus soft.
Eh bien, c'est une très, très belle conclusion. Je te remercie beaucoup, beaucoup pour le temps que tu as passé avec nous, pour tous les conseils, parce que les gens ont appris. Moi, j'ai appris énormément de choses et les gens qui vont écouter ont appris énormément, énormément de choses. Donc, je rappelle qu'on peut te suivre sur Instagram, Johan Stuck, hein, tout attaché.
Ouais, c'est ça.
I am Woodstock, qui a aussi son compte. Hein, c'est ta marque de vêtements. Il y a des casquettes, il y a tout ça. Après, bien sûr, alors on n'a pas trop parlé des sponsors, mais c'est vrai qu'on aurait pu encore en parler un peu plus longtemps. Mais on retrouve tout ça dans ton univers, hein, sur tout ça. En ce moment, tu fais plus les sorties le mercredi à Lyon, hein,
Non, bah, en fait, bah, du coup, bon, on les a annulées à cause du Covid, et puis on les faisait pas, tu sais, l'été. Donc du coup, on est resté là-dessus et on repart à la rentrée.
D'accord. Donc pour les Lyonnais, surveillez, hein, si vous voulez aller voir, suivre, hein, finalement, parce que
vous pouvez venir, c'est adapté à tout le monde. Donc peu importe le niveau que vous avez, les exercices sont faits pour tout le monde.
Et ben voilà. Et ben comme ça, moi je mettrai tous les liens dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup à toi pour ton temps et pour tes conseils.
Et ben je t'en prie, merci à toi aussi.
Et ben nous après, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao ciao.
Salut.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author Elizabeth Gilbert about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.